Merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Somaïe Roslampour. Je suis militante féministe kurde et chercheuse aussi. Et du coup, j'ai soutenu ma thèse à l'Université de Paris 8 et je milite dans plusieurs collectifs et j'ai un lien à la fois à travers de mes recherches, mais aussi mon militantisme avec le mouvement kurde. Et parce que je suis née et grandie en Iran, dans la région kurde iranienne. Et depuis 2014, je suis exilée en France. Et du coup, c'est à ce moment-là que je m'intéresse à la question de situation des Kurdes en Turquie et au Rojava. Et ça a commencé par une délégation aussi féministe. Et du coup, voilà, il y a un lien aussi avec ma kurdicité, le fait d'être féministe et se trouver en tant qu'exilée en France pour commencer cette recherche. L'histoire du peuple kurde, c'est connu, le peuple kurde, mais leur histoire, elle est très peu connue parce que il y a très peu de gens qui savent que le Kurdistan, il n'existe pas en tant que tel sur la carte mondiale. Par contre, c'est plutôt un imaginaire politique ou on peut dire un souhait, un rêve pas réalisé jusqu'à aujourd'hui d'avoir un territoire autogéré, gouverné par les Kurdes. Par contre, l'histoire, ça commence avec la colonisation. Et du coup, c'était après la Première Guerre mondiale où la composition régionale du Moyen-Orient, elle commence complètement à changer après la chute de l'Empire ottoman, la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, les Anglais, les Français, ils étaient très présents du coup au Moyen-Orient. Et c'est à ce moment-là que il y a un deal et ils commencent à diviser les régions kurdes entre quatre pays de Moyen-Orient. Du coup, bien sûr, la Turquie, après la chute de l'Empire ottoman. Du coup, l'Iran, qui avait déjà une partie des Kurdes, qui avait déjà accueilli une partie des Kurdes, la Syrie et l'Irak. Du coup, depuis, alors que les Kurdes, ils avaient certaines autonomies sous le pouvoir dans la période de l'Empire ottoman, à la fois dans la région iranienne et la Turquie, ils perdent complètement cette, on peut dire, autonomie plutôt territoriale, régionale, au niveau de l'armée aussi, etc. Depuis cette division coloniale qui est faite par surtout la Grande-Bretagne et la France. Du coup, c'était après la Première Guerre mondiale, mais la date, il y a vraiment une date très importante et ça commence dans les années 20 de 20e siècle parce qu'on a la création de l'État turc en 1923, qui est une date assez importante. C'est à ce moment-là qu'on voit aussi la division du Kurdistan. Et à partir de là, on parle plus de l'autonomisation de Kurdistan, ou le Kurdistan en tant que région autonome. Et on parle de ces pays-là. Et du coup, il y a des rapports différents par rapport à la kurdicité et aux populations kurdes dans les quatre pays. Mais ce qui est commun, c'est que les quatre pays, il y a un sort de nationalisme, à la fois nationalisme arabe, à la fois nationalisme turc et nationalisme perse, qui ont été renforcés. Du coup, à ce moment-là, dans la période au début du XXe siècle. Et du coup, à la fois la Turquie, l'Iran, la monarchie, la Turquie sous le pouvoir de Atatürk, les kémalistes, ils ne reconnaissent pas vraiment les droits des Kurdes. Mais parfois, c'est pire parce que la Turquie, il reconnaît même pas l'existence des Kurdes dans son pays. Du coup, alors que les Kurdes, ils sont 20% de la population de la Turquie, du coup, c'est énorme. Plus que des autres régions de Kurdistan d'ailleurs, c'est vraiment la négation totale de l'existence de Kurdes dans ce pays-là. Du coup, c'est plus violente, la Turquie, c'est plus violente envers des Kurdes que des autres parties de Kurdistan, allant jusqu'à la négation totale de leur existence. On appelait les Kurdes les Turcs de la montagne. On les appelait par leur région, du coup, qui est l'est et sud-est de la Turquie. Et même dans les recherches, même parfois chez la gauche turque, du coup, on reproduisait aussi ce discours de l'État chez les féministes aussi. On va en parler aujourd'hui pour parler du mouvement de libération des femmes kurdes parce que tous ces éléments nationalistes qui ont été avancés par un État kémaliste, nationaliste, qui donne un privilège total à la population turque. Du coup, ces éléments, ils vont changer le destin politique, de scène politique de la Turquie après les années 70, par exemple. Parce que, par exemple, il y a l'histoire de la Turquie dont je parle beaucoup de la Turquie parce que l'histoire de PKK, c'est la Turquie, mais en vrai, l'histoire de Kurdistan, c'est une histoire transfrontière. Et c'est aussi intéressant parce que c'est une lutte qui était toujours liée aux autres luttes kurdes de différentes parties de Kurdistan. Par exemple, c'est jamais une lutte qui est enfermée dans les frontières nationales de pays. C'est pas comme les Kurdes, ils sont en Iran et c'est juste une lutte interne contre l'État iranien, etc. C'est toujours une lutte transfrontière et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup, il y avait depuis le 20e siècle, il y avait vraiment beaucoup d'échanges, des forces, des solidarités, ils ont accueilli les Kurdes de différentes parties des autres militantes kurdes quand ils étaient exilés. Par exemple, les Kurdes de l'Iran, ils ont accueilli les Kurdes de l'Irak, Barzani, le père. Du coup, il y a les séparés pour les Irakiens et le PKK. Ils ont accueilli le PKK, par exemple, quand ils étaient exilés. Et là, avec les voyages de Eslogan, on le voit aussi, le voyage de Eslogan, Femmes et Liberté, qui passe tous les frontières de la Turquie, qui arrive au Rojava. Après Rojava, il arrive au Kurdistan de l'Iran et finalement à l'ensemble des pays en Iran. Tous ces voyages, c'est aussi les voyages des forces, des idées, des militantismes, des formes de politique. Et il y a une politique transfrontière face à cette politique coloniale de division qui commence à exister au début du XXe siècle. Et là, du coup, on va en parler peut-être dans le contexte de la Turquie. C'est beaucoup plus particulier parce que c'est vrai que ça a ramené beaucoup de révoltes, son nationalisme très fort dans différents pays. Du coup, à partir de 1920, on a plusieurs révoltes de population kurde. Beaucoup en Turquie, mais pas que en Turquie. Du coup, dans différentes parties du Kurdistan, on a l'expérience de l'autonomie de la République kurde autonome de Kurdistan iranien qui a duré que 9 mois et son chef, Mohammad Qazi, il a été exécuté par la monarchie de l'époque en 1946. Du coup, on a différentes expériences à la fois de résistance, de révolte, mais beaucoup de répression aussi. Et du coup, le nationalisme, en vrai, le nationalisme turc, persan et arabe, ils ont donné aussi la naissance au nationalisme kurde. Et c'est la cause kurde. Il commence par la lutte des nationalistes kurdes, qui bien sûr, ils n'ont pas la même nature, ces deux nationalismes, parce qu'un qui a tout un appareil d'État, monopolisation de violence de l'État, etc., et l'autre qui est complètement opprimé par ces États dans différentes parties de la région. Du coup, dans cette histoire, on arrive jusqu'aux années 60, 70, et il y a aussi le contexte global, mondial, de gauche, de révolte, de décolonisation, de mouvements ouvriers, en Turquie très puissant aussi, par exemple, en Iran, en Turquie, en Irak. Du coup, on a vraiment l'émergence des partis politiques armés kurdes, beaucoup de rébellions dans l'espace urbain aussi, les partis politiques qui prennent l'arme dans les espaces à la fois paysans et urbains de différentes parties de Kurdistan. Du coup, on a par exemple Komale qui accepte les femmes pour la première fois dans l'histoire de Kurdistan, qui accepte les femmes dans ses rangs en tant que femmes en armes des guérillas. Ça commence par Komala, c'est un parti politique maoïste de l'époque en Iran, qui était très actif pendant la révolution iranienne aussi. Mais du coup, cette tradition, ça arrive dans des autres parties de Kurdistan et ça change aussi, ça se développe quand il arrive, par exemple, en Turquie. Et c'est vraiment le PKK, c'est une rupture par rapport, aux autres partis politiques kurdes parce qu'il se distingue à la fois de la création de PKK qui est dans cet espace global de décolonisation, aussi de la lutte armée de l'époque et aussi la gauche turque et aussi du coup la lutte kurde dans différentes parties du Kurdistan. Elle a tous ses ancrages, mais la distinction, c'est qu'il se distingue vraiment par rapport aux autres partis politiques kurdes à travers de la question des femmes et la place des femmes au sein d'Oserange, parce que pour la première fois dans l'histoire du Kurdistan, on voit un phénomène que je l'appelle la féminisation de la lutte armée au Kurdistan, et ça commence par le PKK. Parce que même si les femmes en armes, les femmes kurdes en armes, ça existait au sein de Komale en Iran, le parti politique kurde, ils n'ont pas avancé un agenda féministe et ils n'étaient pas très nombreuses. La différence, c'est vraiment le PKK qui a un agenda de libération des femmes à côté de libération de Kurdistan. Du coup, ça commence et ça avance parallèlement. Et en plus, on voit les femmes, elles rentrent dans les ranges de PKK de façon très massive, au contraire des autres partis politiques kurdes. Voilà, ça c'est un peu pour mettre l'histoire du Kurdistan jusqu'aux années 70, on peut dire, et à partir de 70, et du coup plus clairement 60, dans les années 78, où on a la création du PKK, on est vraiment dans la nouvelle phase.
C'est le PKK, les initiales.
Oui, du coup, le PKK, c'est le Parti de travailleurs du Kurdistan. C'est un parti politique kurde qui est né dans le contexte de répression totale de la Turquie des années 80 et 70, on peut dire. Et c'était né par 22 personnes, 22 étudiantes kurdes et turques de l'époque. Du coup, y compris Abdullah Öcalan, qui est leader de ce mouvement depuis toujours, même s'il est en prison aujourd'hui pour plus de 25 ans. Et aussi, il y avait deux femmes parmi les mêmes fondateurs, fondatrices du PKK. Et le PKK, il a été créé vraiment dans un contexte à la fois de la violence étatique de l'État turc, parce que, comme je disais, les Kurdes n'existaient pas et toutes les révoltes étaient opprimées, répressées. Et surtout, la cause kurde, elle n'existait pas en tant que telle. C'était pas reconnu ni par la gauche de la Turquie, qui était très puissante, parce que il voyait la question de la cause kurde, il voyait comme une division au sein de mouvements ouvriers, au sein de la gauche. Pour eux, c'était la question de classe qui était une question unifiante pour les acteurs politiques. Et ils voyaient pas, la différence entre le prolétariat kurde et le prolétariat turc, par exemple. Alors que l'argument de PKK, pour sa création à l'époque, c'était qu'il se distinguait à la fois de la gauche turque pour dire que nous, on croit qu'on est dans la situation de sous-développement parce qu'on est kurde, on se considère comme colonisé. Du coup, on voit même dans les lignes de charte de création du PKK que la mission de ce parti politique, qui devient armé dans les années 84, la mission du PKK, c'est vraiment décoloniser le Kurdistan pour en faire du coup un Kurdistan socialiste, mais en faveur de la libération du Kurdistan aussi. Du coup, c'était un mélange des idées de Fanon sur la libération, la lutte de libération des peuples, un mélange des idées marxistes-léninistes, parce que c'était marxiste-léniniste jusqu'aux années 95, le PKK, les idées, et même avec l'inspiration maoïste, surtout dans la méthodologie, la guerre prolongée, etc. Et aussi un mélange de deux, mais beaucoup aussi influencé par la gauche turque et cette tradition de gauche turque qui existait. Mais il voulait aussi se distinguer des partis nationalistes kurdes de différents partis du Kurdistan, et surtout Barzani, qui était très puissant à l'époque, parce qu'il pensait que la question de modernisation, la question des femmes, certaines questions n'ont pas été posées en tant que telles par des autres militantes et des autres partis politiques kurdes. Et le PKK, il voulait se montrer plus modernisé que des autres partis kurdes. Et il voulait montrer qu'on peut être, parce qu'en fait, la Turquie, il décrivait les Kurdes comme les arriérés, comme les tribus qui n'ont pas vraiment d'éducation, etc. C'est vraiment des images coloniales de certaines populations minorisées et minorisantes même de ces pays-là, parce que finalement 20% c'est pas si minoritaire si on compte avec les Arméniens et toutes les autres minorités qui existent en Turquie. Bon, bref, mais dans cette situation-là, du coup le PKK, il voulait se distinguer. Du coup, il décide d'avoir un parti à part pour se distinguer de la gauche turque, mais aussi des autres partis nationalistes kurdes. Et là, il commence sa lutte au sein de la territoire de la Turquie. Mais 2 ans après la création de PKK, du coup, on a le coup d'État très violent des années 80 en Turquie, où on a des arrestations et disparitions massives de la gauche turque et aussi des militantes, mais surtout la gauche et les Kurdes, sur le territoire de la Turquie. Il y a beaucoup de gens qui ont été emprisonnés aussi du PKK et finalement, ils se sont obligés de quitter la Turquie et s'exiler ailleurs. Du coup, ils vont en Syrie parce qu'à l'époque, la relation de Assad, le père, avec la Turquie, il était problématique. Du coup, ils ont accueilli le PKK. Et c'est intéressant pour les gens qui savent pas, le PKK, il n'était pas armé au moment de sa création. C'était un parti politique. Et du coup, il annonce la lutte armée dans les années 84 et il l'annonce à côté de révolutionnaires palestiniens, libanais. Et du coup, à Baqa, c'est vraiment une région entre la Syrie et le Liban et c'était sous la gouvernance coloniale de Assad à l'époque, occupation de Assad. Et c'était là, avec les révolutionnaires libanais et palestiniens, qu'il annonce la lutte armée. Et c'est intéressant de savoir que la première guerre que les membres de PKK, ils ont fait, c'était pas la guerre contre la Turquie, c'était la guerre contre Israël dans les années 82. Et du coup, ils commencent par là. Du coup, l'entraînement armé, militaire, c'était fait par les révolutionnaires de la région de l'époque. Et finalement, ils annoncent vraiment la lutte armée à partir des années 80, 84. Et là, du coup, ça commence une phase de violence vraiment qui dure, on peut dire, surtout jusque les années 95. En Turquie, parce que c'est la lutte armée, c'est-à-dire ils allaient village par village, parfois même des villes. Il y a des opérations, actions directes. Il y a du coup la zone de la montagne de Kandil, qui est surtout en Irak, dans la région kurde de l'Irak, mais qui croise aussi la frontière de Kurdistan iranien et la Turquie. C'est là où s'installent du coup les maquis et les guérillas de PKK, et c'est à partir de cette installation-là, du coup, qu'ils commencent, du coup, de lancer la lutte armée et commencer, voilà, cette nouvelle phase, on peut dire, de lutte kurde aussi, parce que finalement, le PKK, il devient, on peut dire, vraiment le parti politique armé dominante dans l'espace de la Turquie. Il n'y a pas des adversaires pareils en Turquie. Du coup, il est presque le seul et il est très implanté dans vraiment la vie quotidienne des gens. Aujourd'hui, il y a presque aucune famille qui n'a pas certains liens avec le PKK, qui a perdu quelqu'un, ou par exemple, qui a un prisonnier politique, ou un martyr qui est en Turquie, qui est tombé en martyr pour le mouvement kurde. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien souligner, c'est qu'on a, en fait, quand on parle de PKK, il faut distinguer deux choses. On a le parti politique armé, hiérarchique, vraiment très classique, sous les formes de marxisme-léninisme de l'époque, même aujourd'hui, dans la forme, il garde quand même cette hiérarchie armée, etc. Du coup, on a le parti politique armé, ce que on peut appeler le noyau dur, du coup, les combattantes, etc. Mais on a le mouvement kurde. Du coup, quand on entend le mouvement kurde, il va bien au-delà de parti politique armé. Et c'est pas que l'organisation armée, c'est vraiment un mouvement populaire très massif. Du coup, il y a des partisans, il y a des militants civils, du coup, il y a des écologistes, des syndicalistes, des journalistes, des intellectuels, des féministes, des gens qui sont dans les coopératives, des municipalités, des partis politiques. Il y a vraiment toute une mobilisation à la fois dans l'espace politique, du coup, les partis politiques, etc., mais l'espace civil aussi. Et du coup, là, ça peut aller jusqu'à des millions de gens qui soutiennent ce parti politique, dans ce sens-là, le mouvement kurde. Du coup, quand on parle de mouvement kurde, c'est un peu différent par rapport voilà, le PKK en tant que parti politique armé, parce que c'est pas les mêmes enjeux non plus, même sur la question de genre, on n'est pas dans la même, exactement les mêmes registres de genre, de contrôle ou d'émancipation non plus. C'est, ça change parfois de l'espace périphérique, du coup civil, que de l'espace de noyau dur, c'est-à-dire chez les combattantes. Du coup, ouais, les gens, ils se demandent comment ça se fait que, déjà, avec toutes ces visions orientalistes de Moyen-Orient, comment ça se fait que ces femmes qui étaient toujours présentées comme des femmes victimes, passives, pas éduquées, oppressées par les islamistes, du coup, toutes ces images coloniales, islamophobes, racistes, quand on a vraiment de orientalistes, quand on a de Moyen-Orient, comment ça se fait que finalement, il y a un peuple où ils ont la lutte armée révolutionnaire, et dans cette lutte armée révolutionnaire, il y a presque la moitié sont les femmes. Du coup, là, il y a aussi la lutte armée en féminin. Du coup, c'est ce que je l'appelle la féminisation du mouvement kurde. Mais comment ça se fait? Pourquoi des autres peuples, même s'ils étaient réprimés, oppressés, ils n'ont pas réussi d'avoir ce genre de militantisme révolutionnaire avec autant de présence des femmes et le mouvement kurde et le peuple kurde, ils arrivent du coup avec ce phénomène de féminisation de la lutte révolutionnaire ou la lutte de libération. C'était une de mes questions importantes pour avancer sur cette recherche et de comprendre mieux le mouvement kurde. Et il y a plusieurs éléments qui nous expliquent déjà quelle est la place des femmes au sein du PKK et pourquoi cette place est importante. Et à quel point cette place, c'est un décor et c'est une réalité. Du coup, est-ce que ça correspond vraiment à une réalité où ils sont juste là pour dire que nous, on est, vous voyez, au niveau de genre, on est avancé, moderne, etc. Oh non, c'est qu'ils participent activement, vraiment aux prises de décision, autonomisation, activité, changement de paradigme, etc. Moi, ce que je défends, c'est la deuxième. C'est-à-dire leur présence, c'est une présence active et réelle au sein du mouvement kurde où non seulement ils ont féminisé la question kurde, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas séparer la question kurde en Turquie de question de genre. Elle avance en même temps. C'est deux questions inséparables. Alors qu'il y a, je sais pas, avant le PKK, c'était pas comme ça, nulle part, ni en Turquie, ni dans des autres parties du Kurdistan. Du coup, premier changement, c'est qu'ils ont changé complètement, je veux dire, la lutte de libération des femmes kurdes. C'est surtout ces femmes-là qui ont changé le destin de parti et qui ont changé leur propre destin aussi. Du coup, ces femmes-là, ils ont changé aussi l'imaginaire des Kurdes sur tout ce qui est féminin, masculin, sur tout ce qui est, jusque-là, par exemple, avant l'arrivée massive des femmes au sein du PKK, du coup, avant la féminisation du mouvement kurde, en fait, le combattant, c'était forcément un homme. C'était l'imaginaire politique, c'était les hommes qui vont libérer le Kurdistan, qui vont aussi ramener la décolonisation du Kurdistan. Ça commence à changer. Ça commence à changer avec la féminisation du PKK. Et comment ça commence à changer? C'est que les femmes, bah, par la force de la violence, on va en parler, quelles sont les motivations d'engagement pour les femmes, etc. Mais finalement, c'est la violence surtout qui oblige toute la société kurde de participer de certaines façons, de contribuer à cette guerre contre l'État turc. Et dans les années 90, 92, où il y avait vraiment le niveau de violence intense, surtout dans les années 93, 96, on a un niveau de violence qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la Turquie entre, du coup, les Kurdes et les Turcs. Il y a 4 000 villages qui ont été brûlés, des milliers de gens qui ont été déplacés. Même si aujourd'hui, on parle de 40 000 de martyrs, du coup, entre le PKK et l'État colonial turc. Mais du coup, une grande partie, c'était vraiment dans les années 80. C'était immense, le niveau de la violence. Et les gens, avec ce qu'on peut dire l'économie émotionnelle de violence, vous voyez, la situation de vengeance, qu'est-ce que je peux faire, quelle est ma responsabilité, il y a mon père qui a été tué, il y a mon frère qui a été tué, il y a ma soeur qui est en prison. Du coup, dans ces situations, les gens, ils décident de participer à la guerre. Du coup, on voit l'engagement des femmes dans la guerre avant l'engagement des femmes dans la lutte armée. C'est l'engagement dans la guerre par la force de la violence qui les amène vers la politisation et l'engagement dans la guerre. Du coup, ils participent, ils prennent l'arme. Ils prennent l'arme pour différentes raisons, mais ça commence à ce phénomène de féminisation du PKK, ça commence vraiment dans les années 92. Et dès qu'ils arrivent de façon massive, ils changent le destin du PKK aussi. Du coup, c'est plus un parti politique comme avant. Parce que, OK, ils arrivent. Bon, là, ça s'arrête, la guerre très intense après 2 ans, 3 ans. Ils voient qu'il y a une guerre interne. C'est-à-dire, c'est pas que contre l'État, c'est contre le patriarcat qui a été internalisé par leur homologue masculin avec qui ils combattent contre l'État turc. Du coup, c'est ce qu'ils appellent la révolution dans la révolution. Du coup, une révolution féministe ou féminin, on peut dire avec leurs propres mots, au sein d'une révolution pour la libération du Kurdistan. Du coup, ça, c'est super intéressant parce que à partir des années 95, c'est deux mêmes révolutions qui avancent parallèlement côte à côté. Et c'est vraiment la singularité du mouvement kurde et mouvement de libération du Kurdistan par rapport aux certains mouvements de libération, par exemple en Algérie, où il y avait aussi la participation active des femmes. Mais malheureusement, ça n'a la période post-conflit, post-libération, du coup, quand il y a la décolonisation, on voit le retour des femmes au foyer et aussi encore, du coup, la masculinisation de l'espace politique, etc. Au moins, les femmes, elles perdent la place qu'elles avaient. On les a pas donné la place qu'il fallait. Et du coup, les femmes de mouvement du PKK, ils avaient tous ces leçons, tous ces héritages. Ils voulaient pas reproduire ça. Quand j'ai interviewé les gens, il y a beaucoup de combattants qui me disaient, on voulait pas devenir comme les combattants de Comalé en Iran qui ont battu mais qui ont rien gagné pour les femmes, qui ont rien gagné, comme les femmes en Algérie. Après la lutte de décolonisation, on les a demandé de retourner au foyer et faire le travail reproductif et voilà. Et on a donné du coup les grands espaces décisionnels aux hommes. Nous, on voulait pas faire ça. Du coup, ils commencent à créer les groupes en non-mixité choisie au sein des groupes mixtes. C'est-à-dire les femmes de mouvement kurde, à partir des années 80, ils commencent à créer pour la première fois les bataillons en non-mixité féminin. Du coup, les bataillons féminins qui étaient très difficiles à créer aussi parce que déjà ils acceptaient pas les femmes parce que pour eux dans l'imaginaire c'était forcément le combattant, c'était forcément un homme. Du coup, si une femme il se bat avec l'arme, il est faible, il est fragile. Du coup, ils disaient chaque fois quand on perdait un bataille, ils disaient c'est parce qu'on a des femmes avec nous, c'est parce que vous êtes là. C'est du coup on est capté facilement par l'ennemi parce que vous êtes femme, c'est vous êtes provocative pour l'espace armé parce que c'est pas votre place ici dans la montagne. Et du coup il y avait tellement de méfiance envers des femmes en armes dans la montagne, dans les maquis, etc. Mais ils ont bien battu, surtout la première génération de mouvement kurde. Les femmes, ils ont fait vraiment un sacré travail pour s'imposer. Pour dire que parfois ils faisaient des choses 2 fois plus lourdes que les hommes. Par exemple, ils marchaient pendant 4 heures. Et ils mettaient vraiment les choses très lourdes sur leur dos, mais qui étaient vraiment au-delà de leur capacité. Mais ils voulaient dire que nous, on peut tout faire. Comme vous. C'est ce qu'on appelle en fait la masculinisation de corps dans la première période de PKK. C'était pas vraiment très féministe, c'était on voulait devenir comme vous, comme les hommes. Du coup, on voit vraiment la masculinisation de corps. Mais bon, au bout d'un moment, ils ont dépassé ça et ils ont dit c'est pas la peine de devenir comme un homme. Nous, on a notre propre organisation en non-mixité dans toutes les organisations mixtes. Du coup, à partir des années 93, les femmes de PKK, ils sont dans les organisations mixtes et non-mixtes en même temps. Du coup, ils sont dans les bataillons mixtes, dans les bataillons non-mixtes. Et ce principe de non-mixité, il existe dans tous les partis politiques, dans toutes les organisations civiles proches de PKK, dans la région, dans la périphérie du mouvement kurde aussi. C'est pas que dans la lutte armée au sein de PKK. Au sein du mouvement kurde, il y avait vraiment ce qu'on appelle la masculinité adaptée, c'est-à-dire il y a des valeurs masculines qui ont valorisé dans la lutte armée. Comme la lutte armée, c'était toujours considéré comme un espace pour les hommes. Et du coup, c'est des valeurs de courage, de force, etc. C'est des valeurs qui ont été dans l'imaginaire, dans l'opinion publique, l'imaginaire collectif, c'est considéré comme des valeurs masculines. Et c'est ces valeurs-là qui ont été aussi valorisées par les combattantes de première génération, comme je disais, pour se montrer aussi puissantes, de dire que nous, on peut rester dans la montagne, on peut devenir aussi les combattantes et lutter pour le Kurdistan, surtout. Nous, on peut aussi donner pour le Kurdistan, on peut se sacrifier pour le Kurdistan. Et ça a donné jusque ce qu'on appelle du coup vraiment ce phénomène de martyr en féminin au sein du mouvement kurde. Il y a même des actions, des attentats suicides qui ont été faits par les femmes, qui ont été très idéalisées aussi par le mouvement kurde et dans son discours. Et c'est pareil, en fait, ces femmes-là, ils voulaient montrer qu'ils sont prêtes à tout donner pour la libération du Kurdistan, même plus que les hommes. Et du coup, c'était aussi une façon de reproduire tout ce que les femmes font au sein du foyer, c'est-à-dire le sacrifice au sein du foyer qui est très lié de l'élément de genre, qui est aussi un élément genré, c'est-à-dire c'est pas pareil pour les hommes et les femmes quand on dit c'est un élément genré, c'est ça, c'est pas pareil pour les hommes et pour les femmes. Et c'est pareil au sein de partis politiques en fait. Tout ce qu'on parle, la violence légitime, la autodéfense face à l'État turc. Est-ce que cette autodéfense, cette violence légitime, est-ce que la violence légitime dont on parle a un sexe? Moi, j'essaie de montrer dans ma recherche que elle a un sexe. Et c'est le sexe masculin. C'est avant tout une violence masculine. Parce que c'est des valeurs de masculinité qui ont été mises en avant, du coup, dans la lutte armée. C'était un défi pour les femmes. Parce que tu viens avec des valeurs contre ce patriarcat de tout, de la lutte armée aussi. Et comment ne pas reproduire aussi ces valeurs de masculinisme? C'était un défi et c'est parce qu'au bout de moment, ils ont décidé de changer ce masculinisme adapté et aller vers l'autonomisation des femmes. Et dans le sens où ils créent leur propre organisation, leur propre groupe en non-mixité choisie. Et franchement, je peux dire, d'après tout ce que je comprends du mouvement kurde, s'il y avait pas des organismes en non-mixité choisie pour les femmes, on n'avait pas cette place importante des femmes au sein du mouvement kurde aujourd'hui. On aurait dû avoir certaines avancées, mais pas aussi bien développées, parce que ce qui les a permis de continuer depuis 4 générations la lutte, la cause des femmes au sein de la cause kurde, c'était vraiment des organisations en non-mixité choisie. C'est là où ils ont gagné la force, la confiance, non seulement la confiance en soi, la confiance à leur genre, de dire que les femmes, elles peuvent faire aussi les choses, mais pas pour devenir comme les hommes, pour qu'ils puissent faire à leur façon et contribuer et changer même la nature de mouvement kurde. Du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent de changement de paradigme du PKK, de marxisme-léninisme vers confédéralisme démocratique, vers, on peut dire, les paradigmes plus communalistes, où il y a l'écologie, la question des femmes et les communes. Mais tous ces changements de paradigme, c'est intéressant de savoir qu'il y a derrière, il y a tout un travail des femmes du mouvement du PKK. Alors que c'était non annoncé par le leader, Öcalan, parce qu'il avait cette légitimité, parce qu'il avait cette place importante de annoncer en tant que théoricien, idéologue et chef du PKK. Mais les femmes, par exemple, c'était les premières qui ont parlé d'autonomisation au sein de PKK. C'était leurs idées, en fait, qui commencent à être développées dans l'ensemble de partis et qui ont été réappropriés du coup par différents secteurs de partis de mouvements kurdes. C'est pas pour dire que c'est juste les femmes qui avaient ces idées et après ça a été réapproprié. C'est plutôt pour dire que les femmes, ils avaient activement participé à tous ces changements. Et ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de la tête de leader. Ça vient de tout un travail collectif, y compris le travail des femmes au sein du mouvement kurde. Et surtout de leur intelligence de faire leur autonomisation dans la lutte armée, dans l'espace politique et dans la théorisation à travers de la non-mixité choisie. C'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, au sein du mouvement kurde, il y a des avancées vraiment intéressantes. Toutes les décisions liées à la question de genre, ils ont prises juste par les femmes. Les hommes, ils n'ont même pas un mot là-dessus. au sein du mouvement kurde. Tu vois, même au sein de la lutte armée qui est très hiérarchique, où on voit vraiment la différence entre commandante, du coup, à un simple combattante. Là, quand il s'agit de la question de genre, c'est réglé toujours par les femmes. Et on a aussi des autres avancées, coprésidente, c'est-à-dire pour chaque poste dans n'importe quel parti politique, organisation civile, municipalité, quoi que ce soit. Et aussi dans la lutte armée, on a un homme comme représentant et une femme. Ça reste très binaire, bien sûr, ça reste très binaire, malheureusement, et très hétéronormatif, mais c'est quand même une avancée par rapport au système patriarcal qui existait jusque-là au sein des autres partis politiques kurdes. Du coup, on a la non-mixité aujourd'hui dans toutes les partis politiques aussi, dans les municipalités sous le contrôle des Kurdes et aussi dans les organisations civiles, écologiques, syndicalistes et des autres organisations liées au mouvement kurde dans la région kurde de la Turquie, mais pas que dans des autres parties du Kurdistan, parce qu'il y a la branche kurde de PKK, non seulement en Turquie, mais aussi en Irak, en Iran, et bien sûr au Rojava, c'est très lié aussi, les dirigeants de Rojava, ils sont très liés de PKK. Ce qui m'a beaucoup touchée dans mes entretiens, c'est que quand ils racontaient les premiers bataillons, les premières actions qu'ils ont organisées en non-mixité, à quel point c'était difficile de faire accepter par des autres. Parce que quand même, ce masculinisme, il était très puissant au sein de la lutte armée. Et c'est pas qu'au Kurdistan. En fait, dans le monde entier, la lutte armée, ça reste un espace très masculin. Et vraiment, ça reste le monopole des hommes. Du coup, même dans les armées régulières des États, c'est pareil. Du coup, il y a toutes ces valeurs de masculinisme, d'extrême droite, etc., qui se reproduisent dans les armées des États. Mais quand il s'agit des armées révolutionnaires, c'est différent. Du coup, il y a des valeurs démocratiques, mais sur la question de masculinisme, ça reste quand même très hiérarchique. La lutte armée est quand même plutôt un monopole des hommes. Du coup, les femmes kurdes, ce qui était intéressant, c'est que ils ont réussi de s'imposer. Finalement, au Rojava, à partir de 2014, il y avait des villages qui ont été libérés que par les femmes, que par les bataillons féminins en non-mixité, par Daesh, l'État islamique. Du coup, il y a des villages qui ont été libérés de l'État islamique que par les femmes, que par les combattantes féminines en non-mixité avec leur bataillon. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça devient évident pour nous, de notre génération, qui n'était pas un phénomène, qui n'était pas du tout évident dans la première génération des femmes qui étaient présentes dans les années 90, par exemple, au sein du PKK. Ça, c'est un truc très intéressant. Et deuxième chose qui est aussi à souligner, c'est que ces femmes, ils me disaient que, en même temps, ces hommes, qu'ils étaient contre tout quand il s'agissait de nous, de dire, bah, nous, on peut aussi faire, on peut être aussi légal, etc. Quand on voulait créer notre propre bataillon, notre propre organisation, ils étaient surtout contre notre création de bataillons indépendants parce que c'était la lutte armée. Et ils pensaient que la lutte armée, c'est pas pour les femmes. La lutte armée, c'est pour les femmes. La lutte armée, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Du coup, c'était ça qui s'opposait. Mais sinon, pour créer les organisations en non-mixité, en soi, ils n'étaient pas contre. Au contraire, ils étaient pour et il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. Parce que socialement, du coup, sociologiquement, déjà dans la société, on avait ce qu'on appelle la ségrégation de sexe. C'est-à-dire, il y avait des espaces où l'interaction entre les hommes et les femmes au sein de famille, dans la société, elle est limitée. Il y a des espaces vraiment séparés et la ségrégation, elle est assez forte dans la société parce que, voilà, il y a le contrôle de corps des femmes, il y a le contrôle de sexualité, etc., qui empêche vraiment d'avoir les espaces très mixtes à l'époque, surtout dans la société. Du coup, alors, le PKK, il est issu de cette société, il est issu de cette, on peut dire, situation, contexte social de la Turquie de l'époque. Du coup, ils n'étaient pas très contre d'avoir des groupes en non-mixité. Les femmes, vous, entre vous. Vous voyez? Parce que finalement, les grandes décisions, elles pouvaient être prises par toujours les hommes. Vous voyez? Et toutes vos préoccupations de genre, on vous laisse le faire. Mais bon, ce qu'ils ont fait, les femmes de mouvement, c'est qu'ils ils étaient quand même conscients de ça. Ils avaient cette intelligence de voir plutôt la non-mixité comme un outil, comme un moyen, pas comme un objectif en soi. Pour eux, du coup, c'est vraiment, pour elles, ils voyaient la non-mixité comme un élément qui les avance dans la lutte, commencer par ça, et du coup, aller au-delà des organisations en non-mixité juste pour prendre la décision autour de genre. Non, pour se préparer, aller avec la force collective au sein des organisations mixtes et participer activement dans les organisations mixtes, du coup, sur les décisions, la diplomatie et tout ce qui était la monopole des hommes jusque-là au sein de partis. Mais comme je disais, du coup, l'engagement, c'est intéressant de savoir où il vient cet engagement actif des femmes au sein de la lutte armée. Mais comme j'ai évoqué, l'engagement, il commence par l'engagement dans la guerre, qui est une obligation de contexte, l'engagement dans la violence, et à partir de là, l'engagement dans la politique et l'engagement dans la lutte armée. C'est-à-dire, il y a des étapes vraiment de sensibilisation, de socialisation, nouvelle socialisation, cette fois-ci politique, militante, etc., dans le contexte voilà, de la guerre et le conflit interne avec l'État. Du coup, il y a une expression très intéressante au Kurdistan quand on dit les Kurdes, ils n'ont pas d'amis que les montagnes. Les montagnes, ils sont les seuls amis des Kurdes. C'est parce qu'en fait, dans l'imaginaire kurde, depuis le PKK et l'émergence du PKK, on a cet imaginaire kurde qui a complètement changé. Du coup, les guérilleras et les combattants, ils sont vus comme à la fois les combattantes émancipées et émancipatrices, c'est-à-dire, et la montagne, il devient vraiment la zone de libération. Et d'autant plus pour les femmes que les hommes, parce que les femmes qui voulaient pas se marier, par exemple, à l'âge de 16 ans, qui voulaient pas devenir, comme ils me disaient, on voulait pas devenir comme nos mères, nos tantes, nos sœurs, on voulait avoir une autre vie, moins répressive, avec plus de libération et plus d'autonomie de genre, etc. Ils voient vraiment la montagne où il y a des maquis, où il y a du coup des combattantes, combattantes. Ils voient la zone de la montagne comme une zone de libération. Et ça joue beaucoup sur leur départ. C'est-à-dire cette idéalisation qui les aide de quitter et faire une rupture avec la vie quotidienne. Parce que finalement, rejoindre la lutte armée, c'est-à-dire prendre cette décision de radicalisation. Bien sûr, radicalisation dans une lutte révolutionnaire ici. Mais en soi, ça reste une façon de radicalisation. C'est-à-dire comment tu fais une rupture avec la quotidien, même pas pour participer à la politique. Parce que pour participer à la politique, on peut commencer par les partis politiques, les organisations civiles, les municipalités. Il y a des combattants que j'ai interviewés, ils m'ont dit, il y en a qui ont commencé par là. Mais quand la situation, le contexte, parfois, c'est tellement répressif, qui enferme même la possibilité de continuer le militantisme dans les partis politiques. Par exemple, il y en a qui me disaient, moi j'étais militante d'abord, je voulais pas partir en montagne. Mais du coup, on m'a arrêtée 3 fois quand j'étais dans un tel organisme lié au PKK. J'étais accusée de terrorisme, on m'a arrêtée 2-3 fois. Et on m'a dit, je peux plus travailler en tant que militant. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je quitte. Du coup, tu fais ce choix radical de rupture avec ta situation parce que toutes ces possibilités sont fermées. Et c'est par la répression politique de l'État. Quand l'État, il ferme vraiment les possibilités politiques, c'est les possibilités dans la lutte armée qui commencent à s'ouvrir. Et c'est exactement les différentes phases de mouvement kurde. Chaque fois qu'il y a des nouvelles phases de recrutement, c'est parce qu'il y a une fermeture dans l'espace politique. Il y a toujours un aller-retour. Et quand, par exemple, depuis les années 2000, la Turquie, il voulait rejoindre l'Union européenne, du coup, il a un peu ouvert la scène politique pour les Arméniens, pour les Kurdes. Il avait beaucoup plus de tolérance de militantisme politique. Du coup, il y a moins de départ dans la montagne chez les combattantes aussi. Du coup, il y a toujours un équilibre entre la possibilité de faire la politique et l'impossibilité de faire la politique. Du coup, au lieu de ça, faire une rupture et aller dans les montagnes. Mais j'explique dans ma recherche pourquoi il y a une différence sur cette utopie de la montagne en différence entre les hommes et les femmes. Il y a des motivations qui sont pareilles pour les hommes et les femmes, par exemple la violence, vengeance, la famille, la responsabilité, et surtout l'économie émotionnelle de la guerre. Tu veux vraiment faire quelque chose comme tout le monde pour ton peuple avec cette violence. Il y a ça, mais il y a des éléments qui expliquent pourquoi les femmes, ils sont partis dans la montagne en tant que femmes, avec des motivations qui sont liées au genre. Et ça, c'est vraiment la société patriarcale. Comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de gens qui s'armaient pour échapper du coup à la violence patriarcale, parce qu'ils pensaient que finalement, ils préfèrent voilà, de cette subjectivité politique que rester sous le contrôle des familles patriarcales, parce que qui à l'époque, c'était énorme, la famille, elle avait vraiment un contrôle, on peut dire, total sur le corps et la vie des femmes. Il y a ça, mais il y a aussi des autres éléments qui peuvent nous expliquer. Par exemple, il y a une camaraderie très forte au sein du mouvement kurde, c'est-à-dire dans la lutte armée. Bah, c'est ça qui fait que la montagne, il devient un peu une utopie idéalisée, c'est qu'il y a moins de hiérarchie. Les commandants, ils mangent dans les mêmes assiettes que des combattants simples. Du coup, on a moins de hiérarchie quand on voit dans la société. Tout le monde s'habille de la même façon, mange la même chose et fait le même travail. Après, avec les hiérarchies organisationnelles, mais il y a beaucoup de distinctions qui se disparaissent dans la montagne. Et du coup, ce qui remplace ces distinctions, c'est vraiment la camaraderie. C'est-à-dire, et quand il s'agit des femmes, cette camaraderie, elle avance avec un sort de sororité très puissante au sein du mouvement kurde, où il y a des gens qui voulaient même quitter le mouvement. Au bout d'un moment, on m'a dit, avec les difficultés de la vie, combattante, etc., elles m'ont dit, on n'a pas quitté. Moi, j'ai pas quitté parce que c'est la camaraderie qui m'a gardée. Du coup, on voit beaucoup cet écho aussi, c'est-à-dire qui empêche même des engagements des certains combattantes dans la montagne. Et c'est d'autant plus chez les femmes que les hommes, parce qu'il y a les groupes en non-mixité choisie, parce qu'il y a aussi des éléments qui les réunissent pour s'engager. Mais moi, j'avais posé cette question. Pourquoi, du coup, les femmes kurdes, elles arrivent à s'engager dans la lutte armée? Et moi, je peux dire, la réponse, c'est la violence. Malheureusement, c'est la violence et la guerre qui ouvrent de façon très paradoxale cet espace de politisation et cet espace d'avancée sur la cause des femmes. S'il n'y avait pas vraiment cette obligation de violence imposée, et cette guerre, peut-être, c'était différent. Du coup, les femmes qui ont quitté aller dans la montagne, ils ont changé vraiment ce qu'on appelle la division sexuelle de travail révolutionnaire ou de travail violente. Du coup, le travail violent, c'est la lutte armée. Du coup, ils ont changé cette division sexuelle. Il y a moins de division sexuelle de travail révolutionnaire aujourd'hui au sein du PKK. Mais ce qui est changé, c'est surtout les rapports sociaux de sexe au sein des familles, au sein de la société. C'est-à-dire une femme qui était une femme modeste, impuissante, victime, et dépendante des hommes, etc., soumise, etc. Elle change complètement la figure. Du coup, c'est la figure de femme combattante, puissante, indépendante, autonome, capable, courageuse, qui remplace, du coup, cet imaginaire très victimaire des femmes kurdes. Ça change aussi l'imaginaire de genre. C'est-à-dire, on change le rapport social de sexe. Une fille qui part dans la montagne pour faire la guerre, elle pouvait le faire avant son père, avant son frère. Il y a le frère qui rejoint la sœur. Du coup, on a moins de hiérarchie, tu vois, et dans la montagne, ça n'existe pas, cette hiérarchie familiale où le frère, il pouvait contrôler à la fois le corps et les décisions et la vie de sa sœur à l'époque. Bon, t'arrives en montagne, c'est fini, ce contrôle. Cette hiérarchie, elle change la nature. Et du coup, il y a même des familles qui deviennent dépendantes de leur fille qui est dans la montagne. C'est-à-dire, c'est la fille qui leur dit, allez voter qui, quoi faire, comment gérer la vie quotidienne. Du coup, ils sont même, tu vois, c'est la fille qui devient vraiment la source de décision au sein de famille, même si elle est dans la montagne. Parce que ça devient une combattante qui lutte pour la libération de Kurdistan. Du coup, c'est un hommage aussi à ce travail incroyable qui est fait par la première génération des femmes qui partent en montagne. Il y a du coup tous ces rapports de force qui commencent à changer. Sachant que quelqu'un qui quitte le foyer et qui va dans la montagne en tant que combattante, bon, il change aussi le rapport par rapport à la famille et le mariage patriarcal, c'est-à-dire les femmes dont jusque-là ils étaient obligés de accepter ce rôle de mère par l'obligation de se marier après avoir des enfants. Du coup, il y a à la fois le mariage et la maternité obligatoire dans certains sens. Du coup, c'est automatique, les femmes, ils le font parce que c'est la socialisation genrée qui les impose de devenir mère, etc. Et si t'es pas en mère, t'es mal vu parce que t'es accusé par l'ensemble de la société ou on pense que t'es pas une femme complète, etc. Alors que si tu fais le choix de partir dans la montagne et devenir combattante, il y a moins d'obligations. Du coup, de ce système patriarcal genré, du coup, t'es pas obligé de te marier, t'es pas obligé de devenir une mère si tu le veux pas, alors que dans la société, c'est très difficile de résister à cette obligation. Et à l'époque, d'autant plus pour la première et deuxième génération des femmes qui ont rejoint le PKK aujourd'hui, c'est encore plus simple. Du coup, dans ce contexte-là, bien sûr, il y avait aussi la question de contrôle de corps des femmes. Alors, c'était trop difficile pour les femmes par rapport aux hommes de quitter le foyer, aller dans la montagne, parce que on voyait une femme qui quitte le foyer. Déjà, les femmes, pour aller jusque dans un supermarché, aller dans la rue et acheter un truc, ils étaient déjà accompagnés parfois par leurs frères. Ils étaient contrôlés. Et on a quelque chose qu'on appelait l'honneur, bah, qui existe toujours dans la société kurde, mais était beaucoup plus puissante à l'époque qu'aujourd'hui. Du coup, les femmes qui quittaient le foyer pour aller dans la montagne, elles étaient considérées comme les femmes déshonorées, déshonorées, déshonorées pour la famille. Et ces femmes déshonorées pour la famille qui quittent le foyer vers la montagne, du coup, c'est un coup pour la famille. C'est-à-dire, pourquoi ta fille elle a quitté la maison? Est-ce que c'est parce qu'elle était avec un homme? C'est parce que elle a fait la transgression peut-être des codes sexuels de la société. Et tout simplement, c'était un stigma pour les familles. Elles étaient stigmatisées quand ils avaient une mère féminine de leur famille qui quittait la montagne, même si c'est pour la cause kurde. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, le PKK? Le PKK, il essaie de se présenter en tant que deuxième famille qui donne la sécurité sexuelle à ces femmes qui quittent le foyer. Tout simplement, il envoie ce message très simple mais puissant aux familles patriarcales de Kurdistan. Vous inquiétez pas. Votre fille, elle a quitté le foyer, mais elle est dans la deuxième famille aussi sécurisée, qui est la famille de PKK dans les maquis. Pourquoi? Parce que toutes les relations sexuelles, émotionnelles et érotiques sont interdites depuis sa naissance, du coup, au sein de PKK. Bah, les 2, 3 premières années, c'était pas interdit, mais ça commence à être interdit tout de suite. Et ça dure, cette règle non écrite, mais assez puissante, du coup, au sein de mouvements kurdes. C'est-à-dire, où il y a des maquis et où ils vivent les combattantes, ils n'ont pas le droit d'avoir des interactions sexuelles, amoureuses et érotiques avec leur homologue. Bien sûr, on est dans la hétéronormalité et hétérosexualité. On parle même pas de lesbianisme, on parle même pas des rapports gays, lesbiens et queer, etc. Ça, même la conception et la présence, c'était pas accepté. Et c'est la négation totale quand on demande aux gens est-ce que ça existe ou non. Bien sûr, pour des raisons sociales aussi, c'est pas que des raisons politiques. Du coup, dans cette situation-là, voilà, le PKK, il envoie son message aux familles de dire, vous inquiétez pas, comme les relations sexuelles sont interdites, du coup, vous serez pas déshonorés. Et du coup, le célibat des femmes, il devient vraiment la continuité du patriarcat de la société dans la montagne. Du coup, bien sûr que la montagne, elle est toujours cette utopie, cette zone de libération dans certaines choses, dans certains sens. Par exemple, le changement de rapport de sexe, aussi, ce qu'on a dit, du coup, la division sexuelle de travail révolutionnaire, plein de choses. Mais ça reste quand même limité sur la question de sexualité, sur la question de corps, parce qu'il y a un autre type de contrôle de corps, bah surtout féminin, mais pas que, le contrôle de corps des combattants combattantes, mais surtout les femmes, parce que c'est surtout le corps des femmes qui est considéré comme source de provocation, comme source de mal, comme source de stigmatisation et comme source de contrôle patriarcal. C'est pas le corps des hommes. Du coup, on n'a pas le même attent et comportement aussi vis-à-vis des femmes combattantes et des hommes combattants. C'est pas les mêmes attentes par rapport à leur sexualité et leur corps non plus, tout ce que j'explique aussi dans ma recherche. Pour dire que finalement, sur certains aspects, le PKK, il offre vraiment cette possibilité de libération et émancipation, mais sur des autres aspects, il y a moins d'émancipation, il y a plutôt des contradictions. Du coup, c'est vrai que quand on est célibat, quand on est combattante célibataire dans la montagne, bien sûr, on est moins dans cette obligation de mariage, de maternité, etc., de famille patriarcale, de reproduire tous ces mécanismes masculinistes. Ça, c'est du coup, c'est une sorte d'émancipation, mais en même temps, il y a tout un contrôle de corps par l'organisation. C'est-à-dire l'interdiction, il vient de l'organisation et de toute façon, l'émancipation de sexualité, de corps, ça fait partie de l'émancipation de genre et cette émancipation, elle n'a pas de place de s'exprimer au sein des combattantes et dans les maquis. Du coup, ça reste quand même une limite importante dans la façon dont il décrit l'émancipation de genre, le mouvement kurde. Mais c'est vrai que quand il s'agit de mouvements kurdes, en fait, la désexualisation de corps des femmes, il devient une condition d'engagement. C'est-à-dire, avec l'interdiction des relations amoureuses et des relations sexuelles, finalement, il y a ce que j'appelle désexualisation de corps des femmes. C'est-à-dire, t'as pas cette liberté d'avoir les relations sexuelles. C'est-à-dire, d'émancipation de corps à travers des volontés, des désirs sexuels et d'amour pour la personne. Du coup, c'est vraiment une contradiction importante pour les combattantes parce que c'est un contexte de conflit très difficile, les maquis, la montagne. Du coup, il essaie de justifier cette absence à travers de réalités de la vie quotidienne des combattantes dans la montagne, qui est, pour moi, personnellement, qui est compréhensible, mais qui n'empêche pas de rester dans cette contradiction quand il s'agit de l'émancipation de corps, etc. Pourquoi c'est compréhensible? Parce que, en fait, il pense que la lutte armée et la libération sexuelle, c'est-à-dire avoir la libération sexuelle aussi, c'est-à-dire avoir des relations amoureuses, les relations sexuelles, mais aussi le fait d'avoir enfant. Et il faut penser aussi qu'est-ce qu'on fait. Du coup, il faut aussi penser à la question à la question qui sont autour de maternité de façon générale dans la montagne, dans un contexte très particulier du coup pour le corps des femmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si on est enceinte, par exemple, et on est au milieu d'un conflit. Moi, je ne suis pas la seule de toucher ces contradictions. Ce sont des contradictions de la lutte armée et la participation des femmes et la maternité, la question de maternité dans la lutte armée qui ont été étudiées par des féministes. Par exemple, j'ai une amie qui a travaillé sur la même question au sein de Komale, parti politique kurde de l'Iran, où les relations sexuelles, elles étaient autorisées, par exemple. Du coup, il parle des conséquences pour la vie des femmes et de même leurs enfants de deuxième génération. À quel point ils ont mal vécu aussi, du coup, le fait d'avoir l'enfant au milieu de conflits dans la montagne en tant que combattante, etc., de ne pas avoir le temps de sacrifier comme il faut, du coup, en tant que mère, de se protéger son enfant, aussi de faire son travail de care, etc., parce que les enfants, ils ont été envoyés dans. Ou on a, par exemple, en Salvador, il y a Jules Falquet qui l'a travaillé là-dessus aussi, qui montre que c'est très contrainte. C'est très contrainte et c'est la réalité de la lutte armée. C'est pas la question de avoir ou ne pas avoir le désir d'autorisation, c'est la réalité dure de la lutte armée dans les maquis, dans les montagnes qui complicitent des choses. Mais ça n'empêche pas de voir que finalement la libération de corps, ça reste un aspect important de libération de genre. Qu'est-ce qu'on fait avec cette contradiction, avec cette réalité? Je pense que le mouvement kurde, pour justifier ça, il a essayé de montrer que la révolution et les relations sexuelles et amoureuses, du coup la libération de corps, c'est un délire révolutionnaire pas compatible. C'est-à-dire, on peut pas être révolutionnaire et avoir des relations sexuelles libres. On peut pas être, bah, on parle de la montagne et des maquis et de la lutte armée, hein. On parle pas de la société civile où les relations sexuelles sont autorisées, où les gens, bien sûr, dans le cadre de mariage, en Turquie, mais voilà, les relations chez les militants civils, ils sont autorisés les relations sexuelles et amoureuses. Mais dans les maquis chez les combattantes, cette contrainte a été justifiée comme un délit révolutionnaire qui empêche les combattantes de faire leur travail complet de soldat de cause, de se sacrifier pour la cause kurde, quand tu le exactement comme du coup l'extrait que tu viens de nous lire, tu vois, moi je peux pas aller jusqu'au bout de cette libération si je me concentre sur mon enfant. Par exemple, il y en a qui me disaient, mais écoute, si j'ai mon enfant ici à côté de moi, du coup, je pense qu'à elle, je pense qu'à lui. Du coup, je peux pas vraiment me concentrer sur un tel combat aussi important au sourd, par exemple, mes homologues, mes amis, mes camarades qui vont tomber en martyr, ou qui sont blessés ou qui sont dans le combat. Il y en a même qui disaient que quand pour la libération de la région kurde de l'Irak et des Yazidis par Daesh, quand ils combattaient, en fait, à un moment donné, c'est les combattantes de PKK qu'ils étaient sur la même ligne avec les combattants hommes kurdes de l'Irak, le mouvement de l'Irak, le mouvement kurde de l'Irak. Du coup, il disait, à un moment donné, il avançait plus contre Daesh parce qu'il disait, mais qu'est-ce que je fais avec mon enfant si je tombe en martyr maintenant? Du coup, ils avaient toutes ces réflexions aussi, les femmes qui me disaient, du coup, bien sûr que ça t'empêche d'aller jusqu'au bout dans le combat contre Daesh. Si t'as deux enfants derrière qui t'attendent. Du coup, il disait que ça nous empêche vraiment d'avoir ça, mais c'est vrai que ça crée beaucoup de frustration aussi chez certains combattantes. Par exemple, j'ai interviewé les combattants désengagés qui disaient, moi, j'ai quitté le mouvement kurde. C'est pas parce que j'étais contre, parce que je voulais tout simplement devenir une mère et avoir un enfant. Et par exemple, elle a un enfant aujourd'hui. Du coup, il y a cette liberté aussi de corps, de maternité, qui est en contrainte totale avec ces règles de mouvement kurde qui est en contradiction. Je dis deux mots sur la question cuir et LGBT cuir aussi, parce que on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, parce que j'ai essayé de rester fidèle au récit des combattantes dont j'ai interviewé. Cette question, elle est presque absente chez les combattants, même si elle est très présente dans la société civile, dans les partis politiques kurdes, dans les organisations féministes kurdes, etc. Mais ça reste quand même une question, on peut dire, un tabou dans les combats, dans chez les combattantes, dans les maquis, très peu développés. Il y a des visions vraiment variées sur la question cuir, la place de l'homosexualité, etc. Il y en a qui disent ça n'existe pas, il y en a qui disent peut-être ça existe, mais on ne sait pas à quel point, de façon cachée, etc. Bien sûr que ça existe, mais ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas d'espace permis de parler de ça. Mais en tout cas, c'est aussi une autre contrainte parce que l'idéologie et la pratique de mouvement, elle reste très binaire. Vraiment entre féminité et masculinité, il ne reconnaît pas vraiment cette hybridité qui existe autour de questions de cuir, des questions trans et cette pluralité de pratiques sexuelles aussi, de corps et libération corporelle comme partie de la libération de genre.
Les recruteuses aussi, les recruteurs, ou moi je dis les recruteuses, qui, si tu avais des informations que tu trouves qui sont intéressantes à partager, sinon on continue.
Les recruteuses, en fait, ils avaient un rôle important pour deux raisons. Parce qu'il y avait déjà une tradition maoïste au sein du PKK, c'est-à-dire d'aller maison par maison, foyer par foyer, quartier par quartier et chercher les gens pour les recruter, pour les informer sur les activités de mouvement, pour les sensibiliser tout simplement. Et à travers de sensibilisation, de préparer le terrain pour le recrutement, pour qu'ils puissent rejoindre le mouvement kurde. Ça, c'était. Et deuxième élément, c'est que ce travail de recrutement, c'était surtout fait par les femmes, recruteuses, plutôt que des hommes. Pourquoi? Parce que dans les deux premières générations de mouvement kurde, il y avait moins de confiance, toujours, aux femmes pour qu'elles fassent la lutte armée. Du coup, dans les formations politiques, on leur disait, OK, la lutte armée, c'est pas pour vous. Par contre, vous pouvez aller faire la propagande et le recrutement pour le mouvement. Du coup, par exemple, la première génération, quand ils ont passé la formation militaire, du coup, en Syrie, et dans la région du Liban, etc. Quand c'est fini la formation armée, on a envoyé les femmes tout de suite pour faire plutôt du coup ce travail de recrutement, parce qu'on pensait que les femmes, elles peuvent pas vraiment se battre dans la lutte armée. Mais ça a tourné contre eux, ça devient un avantage pour les femmes, parce que finalement c'était les femmes qui allaient recruter des autres, et les femmes normales de la société, ils ont jamais vu une femme en armes. Ça donne l'occasion de se croiser. Du coup, les femmes combattantes et les femmes de la société. Dans les villages, surtout à l'époque, 70% de la société kurde, c'était vraiment la société de, c'était des villages et des paysans. La base du PKK, de sa fondation, c'était vraiment paysan. Et c'est parce que c'était aussi maoïste dans ce sens-là, parce que c'était, les paysans étaient source vraiment des forces humaines du PKK. Bon, bref, du coup, ça donne l'occasion pour les femmes de se croiser. Et c'est exactement ce qu'ils voulaient envoyer les femmes, parce qu'ils pensaient que c'est un travail plus simple et moins intéressant que la lutte armée. Mais finalement, ça devient vraiment une source d'inspiration pour les femmes normales de la société. Les gens qui les voyaient, tu vois, il y a des femmes qui disaient, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il a dit, est-ce que je peux te toucher? Est-ce que tu es vraiment une femme? Ou tu es vraiment un homme? Parce que j'ai jamais vu une femme en armes. Et peut-être si tu peux te battre en tant que combattante, peut-être t'es un homme, t'es pas une femme. Tu vois, il y a les gens qui les touchaient, il y a les gens qui les croyaient pas, il y a des gens qui étaient juste impressionnés. Tu vois, il y avait des réactions très différentes dans la société, et finalement, ça a encouragé énormément des femmes de faire la même trajectoire.
Et est-ce que tu as su un peu ce moment-là, comment ça se passait,
Du coup,
qu'est-ce qu'elle expliquait, ou qu'est-ce que, de quoi elle parlait, de Marx, enfin, ou de la liberté des femmes, de la
Ouais, du coup,
libération
ces
féminine,
recruteuses, ils allaient pour parler de la cause kurde, surtout de dire pourquoi on est colonisé par l'État turc et pourquoi on est obligé, pour décoloniser, on est obligé de prendre l'arme. Et comment vous, en tant que famille, en tant que membre, en tant qu'individu, vous pouvez contribuer à cette cause qui est une cause commune pour tout le monde. Mais quand il s'agit de questions des femmes, c'est leur comportement. Du coup, la façon dont ils faisaient cette propagande, on peut dire, de parti qui était intéressante. Par exemple, il y avait souvent des groupes des femmes majoritaires et avec 2 hommes, par exemple. Et quand ils allaient dans les familles et ils voyaient, il y a la mère de famille qui est en train de se servir de tout le monde, par exemple, de thé, à manger, etc., ils donnaient toujours des remarques sur la question de genre. Mais pourquoi c'est que la mère qui travaille à la maison? Et du coup, ils se servaient, ou ils demandaient au père, parce qu'ils avaient certaines autorités en tant que combattantes de mouvement kurde. Du coup, tout ce qu'ils disaient, c'était acceptable pour la famille. La famille, ils pouvaient pas opposer, même si c'était une femme combattante, le père de famille, il pouvait pas vraiment dire grand-chose parce qu'il y avait l'autorité de être combattante. Du coup, ils allaient chez les gens et ils disaient, mais pourquoi c'est que la mère qui se servent. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre sa place? Est-ce que vous pouvez servir le thé? Et le père, il n'avait jamais servi le thé de quelqu'un. Du coup, il commence par l'obligation, par le respect. Il ne pouvait pas dire non. Par exemple, j'avais les cas comme ça qui m'ont raconté. Mon père, il ne pouvait pas dire non parce que, voilà, c'était les combattantes. Et moi, j'étais choquée. Il y a quelqu'un qui m'a raconté dans son interview en combattant, il a dit, j'étais choquée, j'étais très jeune. Quand j'ai vu que mon père, pour la première fois, il a pris le plateau de thé et il a servi tout le monde. Alors que jusque-là, ça arrivait même pas une fois dans notre vie. Et ma mère, elle a regardé bizarrement, mais moi aussi, tout le monde était choqué. Les combattants, la prochaine fois qu'ils ont vu nous, ils ont fait la même chose. Et ça a devenu normal au bout d'un moment. Du coup, c'est aussi ces comportements révolutionnaires, on peut dire. Cette égalité de genre qui est dans le comportement individuel, qui impacte énormément des femmes de la société, de voir vraiment le combattant, la combattante comme émancipée, mais émancipatrice aussi. Les recruteuses aussi, comme émancipées et émancipatrices aussi. C'est-à-dire de ramener avec elles aussi cet imaginaire, cette possibilité imaginaire de s'émanciper à travers de la lutte armée. On a aussi tout un espace civil qui est mobilisé autour du mouvement kurde aussi. C'est-à-dire, c'était déjà par les partis politiques qui commencent dans les années 95, qui ont été créés pour renforcer du coup le côté civil de PKK, du coup le mouvement kurde, le côté civil, et du coup les partis politiques qui ont été créés depuis, mais qui ont été fermés chaque fois, ont créé un autre parti politique, etc. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont un impact très important. Mais il y a aussi des municipalités, il y a des organisations civiles, il y a tous ces acteurs, des artistes, des écologistes, des syndicalistes, des journalistes, intellectuels, féministes, de tout, qui sont autour du mouvement kurde. Ils travaillent ensemble, côte à côté. Et là, je parle forcément en féminin, c'est-à-dire des femmes dans la société civile, les militantes dans la société civile qui travaillent vraiment ensemble pour changer aussi, pour féminiser l'espace public et l'espace politique de façon générale en Turquie, mais aussi au Kurdistan. Et du coup, parmi ces acteurs pluriels, très variés, il y a surtout les maires. C'est ce qu'on appelle les maires rebelles kurdes qui ont une place très importante. Il y a aussi les prisonniers politiques, par exemple, qui ont une place très importante. C'est-à-dire, on a du coup les maquis, on a la rue. Du coup, à travers tout ça, quand il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés dans la rue, il y a aussi la prison et le foyer. Il y a quatre espèces qui sont importantes. Mais parmi les acteurs, il y a les maires qui ont une place importante. Et ça commence vraiment par la violence de l'État et la disparition massive des membres du mouvement kurde, du coup, dans les années 80 avec le coup d'État, mais après dans les années 90 aussi. Du coup, ces maires, ils se sensibilisent, ils deviennent militantes à travers de leurs pertes et ils commencent à militer dans plusieurs groupes liés à leur statut. Du coup, on a par exemple les maires de samedi qui se sont manifestés pendant 4 ans, chaque semaine, chaque samedi, du coup, pour réclamer la justice de leurs proches qui ont été disparus pendant la guerre du PKK et par l'État. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu même le corps de ces personnes disparues et les gens qui ont tombé martyrs. On a aussi les maires de paix, qui ont les maires qui avancent sur l'agenda de paix, mais qui sont en soutien de mouvements kurdes partout, dans toutes les régions de Kurdistan. Par exemple, quand j'étais en délégation en 2014, on est allé à la frontière de Kobani, de Rojava et Kurdistan de la Turquie. Dans le village le plus proche de la Syrie, de Rojava, il y avait les maires de paix qui étaient là avec nous aussi pour vraiment un soutien moral des gens et du coup les gens qui passaient illégalement la frontière pour aller soutenir les combattants là-bas. Mais c'est intéressant de savoir que ces maires, ils ont une place importante dans la théorisation de mouvement kurde par Öcalan, mais aussi une place très importante en tant que maire de martyr, parce que le martyr, il a aussi une place très importante au sein du mouvement kurde. Du coup, maire de martyr, c'est aussi un statut respectable et très important au sein de mouvement kurde. Mais ce qu'ils ont changé, surtout ces maires, c'est que en fait, la maternité en tant que position passive de patriarcale, ils ont changé, ils ont politisé cette maternité. Ils ont politisé cette maternité et ils deviennent des sujets politiques. Au contraire, c'est-à-dire ça devient un outil politique pour réclamer la justice pour l'ensemble de mouvements kurdes, l'ensemble de populations kurdes. Et dans toutes les manifestations, du coup, on voit les maires qui sont en première ligne de toutes les manifestations, que ce soit en diaspora, que ce soit dans les régions kurdes, que ce soit à Istanbul. C'est vraiment les avant-gardes de première ligne. Ils sont dans la diplomatie, ils sont dans les échanges. Du coup, on les voit souvent avec les trois couleurs de Kurdistan, avec les symboles de Kurdistan, des foulards de Kurdistan, en fumant aux cigarettes, en insultant l'État turc en tant que l'État fasciste turc qui laisse pas nos enfants tranquilles. On va jusqu'au bout, les signes de victoire par les maires, les d'Omer. Du coup, ils changent complètement la nature de l'espace public et politique qui existe au Kurdistan et en Turquie. Et même le slogan « Femme, vie, liberté » dont on a beaucoup entendu depuis 2022 en Iran, parce que c'est arrivé d'abord en Kurdistan iranien et après l'ensemble de pays. Bien sûr, c'est un slogan qui est né au sein du mouvement kurde de PKK, du coup, par les femmes de PKK. Et ça a commencé dans les années plutôt 2000, 2001, 2002, quand il a enterré les femmes qui ont été tuées, les féminicides qui ont été tués par les hommes de leur famille, qui ont été assassinés. Du coup, les femmes, il a enterré, les femmes du mouvement kurde, il a enterré le corps de ces femmes tuées, victimes de féminicides et souvent de on peut dire des assassinats d'honneur, etc. Il a enterré ces femmes, ce corps, en non-mixité, que par les femmes et surtout par les mères. Et il disait « Jinjian Azadi ». Il disait « Femme, vie, liberté ». Du coup, ça a commencé par là. Et bien sûr, c'était en continuation de différentes actrices, c'est-à-dire les mères, les militantes, les combattants, les prisonniers politiques, etc. Mais elles avaient un rôle, ces mères rebelles, elles avaient un rôle important vraiment pour diffuser largement Femme Vie Liberté. Du coup, on le voit aussi, les photos, on a des photos de ces mères dans les manifestations en 2008, par exemple, en 2010, en 2012, où ils sont devant les banderoles Femme Vie Liberté qui est écrit, etc. Jinjian Azadi en kurde, bien sûr. Et du coup, tout ça pour dire que, voilà, quand on parle de l'histoire de Femme Vie Liberté, on ne peut pas ignorer, du coup, ce travail important qui est fait par les femmes et par les mères rebelles, alors que ces mères rebelles, on y trouve parfois parmi elles les gens qui n'étaient jamais à l'école. C'est souvent les femmes très peu éduquées, qui ont quelques enfants, qui ont vraiment dans des familles nombreuses et qui ont très peu de possibilités de devenir militantes kurdes. Mais ils sont devenus militantes parce qu'il y a cet espace important au sein du mouvement kurde aux personnes ordinaires de la société. C'est un mouvement vraiment anti-élitiste et très populaire. Et du coup, il valorise aussi des valeurs populaires, c'est-à-dire si vous êtes personne très éduquée, très arrogante au sein du mouvement kurde, vous êtes vraiment mal vue, vous n'êtes pas bienvenue. Mais alors, les personnes, en fait, c'était parce que la base, c'était des paysans. Du coup, ils ont vraiment cette vision anti-élitiste où ils pour où tout l'ensemble de société doit être mobilisé pour la cause kurde, mais il donne beaucoup plus de place et de valeur aux personnes ordinaires, y compris les mères rebelles dans la société, et qui les a permis du coup de politiser la maternité et mettre ça au lieu de mettre la maternité au service du patriarcal, au contraire, de mettre du coup la maternité patriarcale, de changer sa nature, de mettre au service de dans une lutte révolutionnaire. Bien sûr, ce n'est pas sans contradictoire, sans, bien sûr, ce n'est pas sans contradiction parce que finalement, c'est aussi à travers de leur statut de mère qu'ils deviennent si valorisés et si importants. C'est-à-dire, il y a aussi un sort de reproduction de statut de mère, de rester dans ce statut parce que c'est valorisé. Alors que, voilà, on est déjà vraiment dans l'obligation de maternité dans la société kurde, comme toutes les sociétés d'ailleurs. Du coup, ça, voilà, c'est aussi de voir comment on peut, quand devenir une mère, ça devient sacré et très valorisé, bien sûr que c'est difficile aussi de ne pas devenir une mère dans la société, de rester célibataire et de rester juste son mari sans devenir une mère. Du coup, il y a aussi des contradictions qui en sortent, mais ça n'empêche pas de voir leur militantisme très actif, révolutionnaire, et leur rôle dans le mouvement kurde. Pour les gens qui connaissent le mouvement kurde, ils ont forcément entendu de Öcalan, le leader charismatique et idéologue charismatique aussi du mouvement kurde. Du coup, Abdullah Öcalan, qui était parmi les mêmes fondateurs de PKK dans les années 78, mais aussi qui est resté le chef charismatique de mouvement et aussi l'idéologue de mouvement jusqu'à aujourd'hui. Du coup, il est en prison depuis 1999 parce qu'il a été arrêté par plusieurs pays, mais sous la demande de la Turquie. Il est en prison et il avait la peine de mort. Ils ont changé la peine de mort et finalement, il est en prison depuis les années 2000. Et depuis la prison, il continue à écrire alors qu'il écrivait déjà beaucoup. Mais là, depuis la prison, il écrit beaucoup. Et surtout, il y a des écritures de Öcalan qui ont sorti en tant que défense, sa défense devant le tribunal de la Turquie, mais qui ont été publiées en plusieurs volumes qui devient vraiment la source idéologique et théorique de mouvement turque. Du coup, tout ce qu'on dit, le confédéralisme démocratique, la généalogie, l'idéologie de mouvement kurde, la théorisation, c'est souvent vraiment avant tout les réflexions écrites, on peut dire, les écrits de Öcalan. Mais après, les réflexions, peut-être, ce sont les écrits de Öcalan, mais moi, je pense qu'il y a toute une réflexion collective derrière cette exposition individuelle. C'est-à-dire, finalement, c'est lui qui a le charisme, qui a cette légitimité de sortir ces textes et de aussi cette légitimité en tant que... Parce qu'en fait, il a cette légitimité parce qu'on pense qu'Öcalan, c'est quelqu'un, c'est un chef, c'est un leader qui a changé le destin des Kurdes. Du coup, le peuple kurde, parce qu'il a donné toute sa vie, autant des années des prisons, et aussi avant sa vie quand elle était exilée en Syrie, et aussi de créer son mouvement armé, etc. Il y a un sort de hommage, aussi reconnaissance de tout ce travail qu'elle a fait pour le peuple kurde. Et le peuple kurde, il est très reconnaissant, surtout les militants et surtout les combattants, combattantes de mouvement kurde, une reconnaissance totale de la place immense d'Öcalan au sein du mouvement kurde. Alors, du coup, je me suis posé cette question importante. Est-ce qu'il s'agit d'un culte de personnalité? Est-ce qu'il s'agit d'instrumentalisation des femmes du mouvement kurde par ce leader charismatique dont on peut entendre, du coup, c'est un argument qu'on peut entendre de plusieurs personnes pour qui, en fait, les femmes du PKK, ils n'existent pas. Ils sont que, du coup, des réceptrices passives d'une idéologie, d'un leader charismatique, un homme leader qui décide à leur place, qui les impose des réflexions, des idées, des théorisations, comme quoi ils ont ni, ces femmes-là, ils ont ni des subjectivités politiques, ni des désirs, des rêves politiques pour réaliser, ni des volontés, et ils acceptent passivement et facilement en tant que récepteur, réceptrice de ces idéologies qui viennent de haut vers le bas. Dans mes travaux de recherche et dans mon livre, j'ai essayé de changer cette narration, de donner la place aux paroles des femmes, de voir finalement comment on peut parler de cette relation un peu, on peut dire, problématique, mais aussi faux que nous entre Öcalan, le leader, et les femmes de mouvement kurde. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que il s'agit d'une alliance mutuelle entre le leader et les femmes de mouvement kurde. Comme il disait, Öcalan, c'était une arme pour elles, et elles, elles étaient une arme pour Öcalan. Je m'explique. Au moment où les femmes, elles rentrent massivement au sein du parti politique du PKK, alors qu'une femme en armes, il n'était pas du tout accepté, alors que tout le monde se moquait de elle, ils n'avaient pas la légitimité en tant que militante, surtout en tant que combattante, Öcalan, il les accueillit avec beaucoup de générosité et beaucoup très chaleureusement. C'est-à-dire, par exemple, le 8 mars de ces années-là, Öcalan, il a accueilli les femmes en leur donnant des fleurs, en parlant des droits des femmes, la cause des femmes, dans les années 80 déjà. Dans des années où la plupart des militants et combattants, ils savaient même pas qu'existe un 8 mars où on a un hommage, du coup, aux droits et aux luttes des femmes. Et là, ce qu'il a fait, Öcalan, c'est de valoriser à travers de ses écrits la place des femmes au sein du mouvement kurde et au sein de la société kurde. Par exemple, il y a toutes, dans les premières années du mouvement, dans ses premiers textes, il y a toute une série de critiques de familles patriarcales, de questions de namus, de l'honneur, au Kurdistan qui était très importante à l'époque. Et c'est parmi les premières, on peut dire, leaders kurdes qui commencent à critiquer leur propre société. Jusque-là, c'était que l'État qui était ciblé, comme le seul cible et la seule ennemie. Et Öcalan, il commence à dire, OK, on a un ennemi externe, qui est l'État turc, sans doute, mais on a aussi des autres ennemis, le patriarcat, le capitalisme, la modernité capitaliste, c'est ce qu'ils appelaient. Et du coup, ils commencent à dire que les femmes, elles étaient les premières colonies oppressées et par les hommes, et oppressées par le patriarcat, mais à travers de comportements et des pratiques des hommes. Du coup, ils parlent de dès les premières années, ils parlent de nouveaux hommes en majuscule, c'est-à-dire de changer la subjectivité politique pour en devenir pour avoir une nouvelle subjectivité, cette fois-ci moins genrée. Et pour ça, elle propose, elle a une théorie de tuer la masculinité toxique. Et c'était pour son époque, c'était très avancé. On parle d'une époque où presque aucun leader marxiste chef, on peut dire masculin de leur époque, il parlait déjà très peu de questions de genre, mais beaucoup moins dans cette façon-là de parler de tuer la masculinité toxique, de dire que de encourager les femmes de avancer sur leur autonomisation. Et ce qui était intéressant, c'est que en fait, c'est un parti politique hiérarchique, mais Öcalan, il a créé un système selon lequel les femmes combattantes, elles n'étaient pas obligées de passer par le comité central pour imposer leurs décisions, pour avoir leurs revendications. Parce que dans ce cas-là, bien sûr qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce comité central qui allaient refuser vraiment les demandes et les revendications des femmes. Mais comme ils n'étaient pas obligés de passer par le comité central, ils passaient par le leader. Et si le leader, il était OK, les décisions et les revendications, elles passaient, du coup, il y avait vraiment une alliance entre deux. Il n'y avait pas cette obligation de passer par le comité central, ce qui crée une confiance mutuelle entre deux. Et c'est de l'autre côté, ça c'est Öcalan. Vraiment, elle a presque, jusqu'à sa arrestation, même après, jusqu'à aujourd'hui, Öcalan, elle a presque accepté toutes les propositions des femmes. Il n'y a même pas un moment où on dit elle était contre. À un moment donné, je raconte dans mes recherches, à un moment donné, les femmes de mouvement, elles arrivent vraiment à un niveau d'autonomisation très important dans les années 98. Ils décident de créer un parti politique féminin parallèle de PKK, c'est-à-dire Parti de travailleurs de Kurdistan, le PKK, Parti de travailleuses de Kurdistan, du coup, en non-mixité pour les femmes. Mais parallèlement, pas au sein du PKK, parallèle de PKK. Et Öcalan, elle était d'accord pour le faire. Bon, quelques mois après, du coup, ils ont parlé avec Öcalan, il était d'accord, il a prouvé son accord. Et ils étaient censés de proposer, du coup, ce projet pour le prochain congrès, du PKK. Et du coup, entre-temps, il est arrêté, Öcalan, il est emprisonné. Il y avait la crise de leadership, toutes ces crises d'arrestation, etc. Du coup, on a apporté le congrès et quand, du coup, ils ont proposé ce projet avec l'absence, du coup, d'Öcalan au congrès, bien sûr que le projet n'a pas été accepté. Et ça crée toute une division et une polarisation au sein du mouvement kurde. Il y a même presque 20 femmes qui rasent leurs cheveux comme un signe de contestation. Et qui ont été enfermés pendant un an dans une vallée là-bas, dans la montagne de Qandil, etc. Du coup, il y a vraiment aussi toute une lutte interne qui est complètement invisibilisée par la survisibilisation de Öcalan. Alors qu'il commence, alors qu'il avance pas par pas et en même temps, c'est parallèle. C'est qu'il y a tellement la survisibilisation de leaders, à la fois par le mouvement, bien sûr, mais aussi par les pensées autoritaire qui voit qu'un leader qui voit pas tout un travail collectif et surtout des invisibles, les femmes ici derrière les rideaux et du coup qui essaie de réduire le mouvement kurde à son chef et surtout le mouvement de libération des femmes kurdes à son chef leader alors que c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça et bien sûr que c'est finalement même s'il y a des idéologies, des propositions théoriques qui sont venues de confédéralisme démocratique, de la part de leaders, mais ce sont ces femmes-là qui l'ont mis en pratique, qui l'ont développé, qui ont changé, qui l'ont modifié, qui ont ramené dans leur vie quotidienne, dans la maison des femmes, dans les ateliers des femmes, dans les quartiers des femmes, dans toutes les discussions collectives de différentes espèces de prisons jusqu'au maquis, de rue, jusqu'au diaspora qu'ils avaient, c'est le travail des femmes. On peut pas invisibiliser ce immense travail des femmes au nom, du coup, d'un chef charismatique qui a une place importante. tout simplement parce que ces femmes-là, elles n'avaient pas elles-mêmes la légitimité en tant que leur genre féminin. Elles n'avaient pas cette légitimité de parler d'autonomisation, par exemple. Ils étaient obligés de passer par quelqu'un qui est plus légitime, et dans ce cas-là, le chef charismatique du mouvement kurde. Ça n'empêche pas de reconnaître le travail des femmes au sein du mouvement kurde. Du coup, moi, je parle plutôt comme une alliance mutuelle et comme une intelligence collective et comme une arme, comme un outil plutôt, et pas un objectif en soi. En fait, s'il n'y avait pas cette deal entre deux, peut-être, et ils n'avaient pas cette possibilité d'avancer l'agenda de genre, le mouvement des femmes, en même temps que le mouvement de libération des femmes. Surtout à l'époque où leur homologue masculin, il n'acceptait pas vraiment les revendications des femmes. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas la même tolérance vis-à-vis des autres homologues masculins qu'Öcalan. Du coup, ils ont beaucoup de reconnaissance vis-à-vis d'Öcalan. Mais quand il s'agit de leur homologue masculin, ils sont très durs. Ils vont pas facilement accepter. Moi, j'ai vraiment vu des scènes des combattants qui s'opposent directement de toutes les argumentations, du coup, de leur homologue masculin, qui acceptent pas facilement, du coup, leurs idées. C'est que ils sont tellement autonomes aujourd'hui vis-à-vis de tout l'organisme de mouvement kurde, sauf le leader. Du coup, c'est une limite pour le mouvement de libération des femmes kurdes, mais on peut le comprendre. Parce que voilà, c'est aussi un parti politique issu de la société patriarcale où les femmes, ils n'ont pas la légitimité, ils sont obligés d'avoir des outils. Un des outils, c'était d'utiliser le charisme de Öcalan pour leur propre agenda, pour leur propre objectif féministe, d'avancer du coup la révolution des femmes au sein de la révolution des cœurs, comme elle disait. Du coup, même les idées de... C'est ce que j'insiste dans le livre, c'est que même les idées de Öcalan, elles sont pas juste ses propres idées. C'est aussi les fruits d'un travail collectif. Et du coup, surtout toute une plusieurs générations des femmes kurdes, mais surtout la génération de Sakine Janssez, les deux premières générations, ils ont vraiment nourri les pensées de Öcalan autour de tous les concepts qu'il propose. Il faut reconnaître aussi ce travail des femmes. Par exemple, quand il y avait des ateliers et des formations en Syrie faites par Öcalan lui-même, il y avait souvent des discussions collectives. Il posait 20 questions, par exemple. Et pendant 3 jours, il essayait de répondre collectivement à ces 20 questions autour de pratiques musulmans et le lien avec la laïcité de PKK, autour de questions des femmes, autour de kurdicité, autour de préhistoire, autour de État turc, autour de l'État iranien, autour de place des femmes, place des Kurdes dans la région, autour de plein de colonialisme interne, plein de questions. Du coup, toutes ces discussions collectives, ils ont nourri aussi le leader, et ses pensées, ses réflexions, il sort bien sûr à son nom, mais finalement, c'est aussi un travail collectif derrière. Et après cette publication, il y a aussi tout un autre travail de modification, de développement, d'avancée, et surtout dans la pratique. Vraiment, il y a les perceptions adaptées des pensées de Öcalan. Par exemple, on n'a pas la même perception de ses idées dans le secteur civil périphérique de Kurdistan que dans les maquis et les combattantes. Ils s'adaptent aussi à travers de leur expérience de genre, de leur vie quotidienne, de leur la violence qu'ils ont subie ou ils n'ont pas subie, etc. Du coup, voilà, je pense que c'est vraiment très, une pensée très autoritaire de ne pas voir du coup ce travail des femmes, et c'est aussi très sexiste, c'est aussi très cette pensée-là, c'est plus patriarcale. C'est cette pensée-là qui est patriarcale, justement. De voir qu'un leader et de voir que l'organisation comme une machine qui recrute, qui instrumentalise les femmes, sans voir la subjectivité et le travail immense collectif des femmes qui a été fait depuis génération au sein de PKK. Du coup, il y a une proposition théorique, la généalogie, qui a été proposée, cette proposition en théorie a été proposée depuis 2008 en tant que telle, avec l'utilisation, l'usage de concepts. Et le mot a été proposé par Öcalan dans un de ses livres en 2008, mais tout de suite ça a été pris par le mouvement kurde de façon générale, mais le mouvement de libération des femmes kurdes, bien sûr, beaucoup plus activement. Et Du coup, de quoi il s'agit? Généalogie, gène, c'est femme. En kurde, logie, c'est la connaissance. Du coup, la généalogie, c'est la science des femmes. Ils traduisent comme ça, ou la connaissance sur les femmes. En tout cas, c'est vraiment, ils sont, la généalogie, ils le décrivent comme un paradigme comme une science à part en féminin. Parce qu'ils pensent que la science, jusque-là, a été dominée par le masculinisme. C'était toujours une science masculine. Et là, ils ont envie de proposer à travers de la généalogie un sens science qui est féminin et qui évite son masculinisme dominant qui existait dans les sciences sociales, etc. Au moins, l'ambition, c'est ça. Et après, dans le fait, c'est un peu différent. Ouais, du coup, ça a été proposé en 2008, mais c'est vrai que ça commence à être retravaillé vraiment à partir de 2012, 14 et surtout 2016 même. Il y a du coup tout un travail collaboration entre les femmes prisonnières politiques, les combattantes, la diaspora kurde qui travaille aussi sur la généalogie et les gens de la société civile. Du coup, il y a vraiment des espaces qui sont aussi prise avec le développement de la généalogie. Du coup, il y a les premières conférences qui ont été faites en 2016, d'abord dans la montagne, après dans la région kurde, après dans la diaspora, autour de la généalogie, déjà pour dire de quoi il s'agit, la généalogie. Du coup. Et à travers de ça, il y a toutes les médias, les revues, les espaces de publication de mouvements kurdes qui sont mobilisés aussi pour faire connaître, du coup, la généalogie. Il y a vraiment un travail de diffusion et travail collectif de développement de la généalogie de façon impressionnante depuis 2008. Ah ben, plus précisément 2014-2016 peut-être. Du coup, la généalogie, c'est une épistémologie, on peut dire, locale. Bien sûr, non eurocentrique, parce qu'il se distingue vraiment avec les épistémologies qui sont concentrées sur l'histoire de l'Europe pour parler de l'histoire de genre, pour parler de l'histoire de classe, etc. Du coup, c'est non eurocentrique dans ce sens-là qu'il utilise des éléments locaux pour avoir une épistémologie anticoloniale et anti-impérialiste, et ce qu'il disait. Hein. Et non eurocentrique. Mais dans quel sens? Par exemple, dans les écrits de Öcalan, qui sont aussi des sources dans ce sens-là, cette partie-là, des sources de la généalogie, on a une narration de l'histoire de la répression de genre qui commence pas par les narrations dominantes qu'on entend. Par exemple, Öcalan et généalogie, ils le disent aussi que l'histoire antique, elle commence pas par la grecque. Mais il commence par dans la région de Mésopotamie. Mésopotamie, c'est l'ancien nom de Moyen-Orient. Du coup, les régions où les Kurdes ils étaient installés depuis des milliers d'années. Du coup, pour la généalogie, la Mésopotamie, elle a connu une période de matriarcat. Et cette période de matriarcat, selon la généalogie et selon le mouvement kurde et Öcalan, du coup, c'était une période où il y avait une utopie féminine. De libération des hiérarchies de genre où la femme, elles avaient une place plus importante que les hommes. Et la femme, elle était la source de création, la source de savoir surtout, la source de toute la connaissance nécessaire pour son époque. Et du coup, il pense que selon cette narration de mouvement kurde, avec l'arrivée de l'État-nation et à des systèmes hiérarchiques religieux et après capitalisme et aussi c'est comme ça qu'on va changer, du coup, la nature, on peut dire, utopique de préhistoire, dominée par les hommes, dans la région de Mésopotamie. Du coup, l'histoire, elle est non eurocentrique parce que ça commence pas par les références qu'on voit souvent dans les études de genre ou dans les sciences sociales en Europe. C'est-à-dire les références à l'histoire de l'eau, des pays européens, que ce soit le grec, que ce soit des autres pays européens. Pour le mouvement kurde, la généalogie, c'est un mélange de ces références locales et aussi les références à la mythologie kurde. Du coup, il y a beaucoup des éléments de la mythologie kurde qui est utilisé par Öcalan dans ses écrits, mais aussi dans la généalogie. Par exemple, on a la figure de Shamaran, Ishtar. Ce sont des déesses et des mythes kurdes qui ont été réactivés, mais de façon révolutionnaire, un peu radicale. Pour avancer vraiment sur cette idée de décolonisation. Par exemple, chez un marin, c'est une figure pour parler de savoir voler des femmes à l'époque de préhistoire. Parce que chez un marin, c'est un mythe. Du coup, c'est une femme moitié serpente, moitié femme. Son corps, et apparemment dans la mythologie kurde, c'était une reine qui avait toute cette connaissance sur le savoir. Il y a un homme par hasard qui se trouve du coup dans son palais, et il devient, et Shamara, elle devient amoureuse de cet homme parce que c'était un palais c'était un palais juste pour les chamarins et son peuple, qui étaient les femmes, moitié serpente. Du coup, un homme, un autre genre, elle arrive par hasard là-bas, elle devient amoureuse de cet homme, elle donne tout son savoir à cet homme-là. Mais elle demande à cet homme de ne jamais parler de ce savoir avec un autre être humain, de garder ce secret pour lui-même. Et ben voilà, il y a tout un mythe autour de ça. Un jour, il quitte le palais par l'obligation, et du coup, le roi, il l'oblige de dévoiler ce secret de Shamaran. Ils vont trouver le palais, ils vont tuer Shamaran, et du coup, depuis cette mythologie, depuis l'interprétation de mouvement Kyo, c'est que depuis cette histoire-là, c'est le savoir en féminin qui a été volé par un homme. Et par la violence des autres, du coup, il y a la féminicide de Chamarin aussi par les forces masculines. Le roi et ses homologues. Et du coup, il essaie d'interpréter le savoir volé des femmes par les hommes à travers de Chamarin. Ou même la sagesse féminine de l'époque de préhistoire par la force masculine. Du coup, c'est comme ça la narration de mouvement kurde qui se distingue des autres narrations un peu eurocentriques, on peut dire. Il y a beaucoup des éléments locaux. Il y a troisième élément à côté de cette narration liée à matriarcale et aussi de mythologie, mais il y a aussi l'histoire du mouvement kurde elle-même qui est très importante dans la généalogie, c'est-à-dire la lutte de libération des femmes kurdes des années 80 jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont apporté. Et ils se distinguent du coup avec les féministes à travers de cette lutte. Parce qu'ils pensent que le féminisme en tant que tel aujourd'hui, ça devient une pensée, une pratique apolitique, capturée par c'est ce qu'ils disent, capturée par le modernisme capitaliste et surtout capturée par les institutions de l'État, du coup, impulsée par l'État-nation et les hiérarchies de l'État. Ils travaillent surtout pour l'État, par exemple, que pour vraiment les causes révolutionnaires émancipatrices. Et ils sont élitistes aussi, selon les femmes du mouvement kurde. Du coup, ils disent qu'on préfère de parler de la généalogie pour se distinguer. Mais il y a un élément hyper important à rendre compte, c'est que cette méfiance vis-à-vis du féminisme, il est très incarné dans l'histoire de relations avec le féminisme en tant que tel en Turquie. C'est-à-dire la façon dont le féminisme s'expose dans l'histoire moderne de la Turquie. Il faut savoir que la Turquie, c'était parmi les trois pays du Moyen-Orient, l'Iran, l'Égypte et la Turquie, qui avaient au début du XXe siècle un sort de féminisme de l'État. C'est-à-dire la modernisation de ces trois pays s'est faite aussi à travers de la question des femmes, la modernisation des femmes, du coup le corps des femmes, l'éducation des femmes, la santé des femmes. Les femmes, c'était un moyen de se distinguer dans la modernité capitaliste de ces pays-là. Du coup, pour beaucoup il y a le code civil important qui donne certains droits aux femmes. Il y a des avancées sur la question des femmes dans la pensée kémaliste et dans la loi en Turquie. Et il y a beaucoup de féminisme institutionnel en Turquie pour la même raison. C'est-à-dire les féministes qui pensent que l'État, il soutient, il est féministe, l'État, parce qu'il soutient, il donne certains droits aux femmes. Et du coup, le même État qui est très nationaliste, il ignore ce côté nationaliste de l'État. Et ça crée toute une division entre les femmes kurdes et les femmes qui représentent le mouvement féministe en Turquie. Du coup, la méfiance des femmes kurdes vis-à-vis du féminisme, c'est une méfiance qu'ils ont avant tout vis-à-vis du féminisme qui a été exposé à travers le mouvement féministe en Turquie. Parce que qui représentait le mouvement féministe en Turquie, c'était souvent les femmes blanches, turques, pro-État, nationaliste, bien éduqué de classe moyenne ou classe même supérieure de la société, et qui ignorait et qui niait parfois même la violence soumise et singulière des femmes kurdes. Il disait, on est toutes les femmes. Il n'y a pas de distinction. Le fait d'être femme, ça suffit. On subit, du coup, la même oppression de genre. Mais les femmes kurdes, bah, ils arrivent et ils disent, écoute, on subit des violences en tant que femmes, mais nous, on subit les violences en tant que femmes kurdes. Si on est tué, c'est parce qu'on est femme, mais on est femme kurde aussi. Du coup, notre identité, elle est intersectionnelle. Il n'est pas qu'on ne se présente pas comme juste par l'identité de genre. Pour nous, la lutte décoloniale, c'est aussi la lutte féministe. La lutte féministe, c'est aussi la lutte de libération de Kurdistan. On ne peut pas les séparer. Et la lutte de classe séparée. Du coup, c'est un mouvement vraiment intersectionnel. Et c'est ça qui divise le mouvement féministe de la Turquie et le mouvement kurde. Parce que pour les féministes de la Turquie, pour long terme, ils voyaient les Kurdes comme terroristes. Du coup, internaliser le discours de l'État et de dire que, du coup, on est dans les écrits par exemple, dans les écrits des féministes des années 80, 90, etc. Dans les recherches, même, il y a un article intéressant qui le montre que les femmes kurdes et leur militantisme, ils n'existent pas. Il n'y a que le terrorisme qui existe. Du coup, c'est vraiment la reproduction du discours de l'État, de ne pas reconnaître surtout la violence de l'État vis-à-vis des femmes kurdes. Et du coup, quand les femmes, elles sont mobilisées en tant que pour soutenir les prisonniers politiques, les féministes en Turquie, ils les soutenaient pas parce qu'ils voyaient pas comme une action féministe. Vous voyez? Parce que pour elles, c'était les terroristes. Vous voyez? C'était pas vraiment les militantes féministes à soutenir, etc. Du coup, la division, elle était forte. Du coup, la représentation, c'était très colonial aussi. Quand elle parlait des femmes kurdes, c'était vraiment des femmes arriérées, pas éduquées, tu vois, qui sont pas la formation politique, qui savent même pas qu'est-ce que c'est les droits des femmes, la démocratie. Du coup, elle parlait de femmes kurdes juste en tant que victimes de crimes d'honneur, des victimes de mariage, victimes de polygamie. C'est vraiment des images très coloniales des femmes kurdes de la part des féministes en Turquie. Bah bien sûr que ça crée le backlash contre vous. C'est-à-dire les femmes kurdes, ils voulaient dire, ok, nous on croit à la cause des femmes, mais il faut qu'on se distingue avec ces féministes dont on est en opposition sur certaines définitions. C'est-à-dire, ils voulaient, pour eux, c'était ces féministes, ils étaient racistes, ils étaient anti-kurdes, ils étaient nationalistes et ils étaient colonialistes et ils travaillaient souvent avec les féministes impérialistes. C'est-à-dire les féministes libérales qui étaient dans l'Occident, etc. Et les féministes kurdes, là, les femmes kurdes, les femmes de mouvement kurde, du coup, ils voulaient se distinguer avant tout de cette exposition de mouvement féministe en Turquie. Du coup, ils préféraient de ne pas utiliser le mot féministe parce que ce mot, il a vraiment, non seulement en Turquie, non seulement en Kurdistan, de façon générale, mais plus précisément avec cette histoire plus complexe encore en Turquie, mais même en Iran, même en Palestine, même dans des autres, c'est des chercheuses qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Dans des autres endroits de Moyen-Orient aussi, le féminisme, malheureusement, il y a une connotation coloniale et impérialiste de mots. C'est-à-dire, sont comme quelque chose qui a été imposé depuis l'étranger et qui correspond pas à la réalité de la vie des femmes de la région et comme quoi, c'est vraiment, quelque chose qui apporte aussi un sort de domination qui est un peu vrai dans certains sens, mais on peut pas réduire du coup le sens de féminisme à travers de divisions géopolitiques et géographiques. Du coup, c'est toutes ces contradictions que j'explique à la fin de mon livre et ma thèse, de dire que ok, c'est très légitime de ne pas se dire féministe. Il y a beaucoup de gens qui se disent pas féministes en Amérique latine, en Afrique, au Kurdistan, mais qui luttent jusqu'au mort pour la cause des femmes, qui sont beaucoup plus féministes que peut-être les gens qui se déclarent féministes dans les actes et dans la pratique. Du coup, en soi, c'est pas un problème. N'importe qui peut définir sa pratique pour la cause des femmes de façon variée, etc. On n'est pas obligé de tous se dire féministes pour ça. Et c'est même avec ces connotations, c'est encore plus problématique. Par exemple, Si on fait la guerre 2003 en Irak au nom de féminisme, la libération des femmes, et surtout en Afghanistan. Du coup, l'invasion de États-Unis en Afghanistan, c'était fait au nom de la libération des femmes afghanes. Et en Irak, c'est pareil. Moi, je me rappelle vraiment des lettres qui ont été écrites en soutien de la guerre, bah, des féministes qui soutenaient l'invasion de Bush contre Irak. Vous voyez, du coup, c'était aussi l'instrumentalisation de questions de libération des femmes des pays du Sud, de Moyen-Orient, avec les bombes, avec la guerre, tu vois, par les impérialistes qui complicitent, du coup, la représentation du féminisme. C'est quoi le féminisme? Si c'est ça, le féminisme libéral, impérialiste, qui veut me libérer avec les bombes, j'en veux pas. Je veux pas ce féministe. Du coup, je vais me distinguer forcément de cette connotation, etc. Du coup, c'est légitime en soi. Ce qui est un peu à réfléchir, et en fait, en tant que féministe kurde, ça nous met un peu dans une position difficile, c'est que, en même temps, parallèlement à ça, il y a des gens qui ont été criminalisés, qui sont en prison, qui subissent vraiment la répression politique, justement parce que, tout simplement, ils se disent féministes dans la région. Parce qu'il y a un anti-féminisme très fort de la part des conservatives dans la société. Du coup, ils sont très contents des gens qui se disent pas féministes, qui disent que le féminisme, c'est un phénomène juste étranger, qui vient de l'extérieur, de l'impérialisme, qui vient de États-Unis, de Israël, tu vois. Du coup, alors que c'est pas vrai. Le féminisme, c'est-à-dire la résistance face au patriarcat, qui existait partout au Kurdistan, comme en Turquie, comme en Afrique, comme en Europe. Du coup, le phénomène, il existe, mais oui, bien sûr que avec des formes différentes. Du coup, le féminisme, c'est pas juste une appropriation occidentale, mais bien sûr que il y a une connotation impérialiste quand elles arrivent dans notre région, qui n'est pas le cas pour les pays colonisateurs comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, etc. Du coup, ça nous met dans un contexte beaucoup plus délicat en tant que femme de Moyen-Orient, féministe de pays du Sud, qui n'est pas le cas pour les féministes de Nord. C'est ça la complicité de choses. Quand je vois que mes amis sont en prison parce qu'ils sont féministes, on a deux femmes de mouvement kurde, le même mouvement de PKK, qui ont la peine de mort en Iran aujourd'hui parce qu'ils se disent féministes kurdes. Tu dis que, bah voilà, c'est aussi criminaliser les féministes kurdes. Et on a aussi un backlash, un contexte anti-féministe global avec le fascisme, la montée de conservateurs, le Trump jusqu'en Argentine, etc. Tout le monde est fier de se dire « je suis contre les féministes, les personnes cuir ». Dans ce contexte global aussi, c'est très délicat de parler de non-féminisme sans tomber dans le piège de anti-féminisme. Du coup, la frontière, elle est très fine. Et moi, j'ai essayé de discuter de tout ça, cette finesse, comment on peut le traiter à travers le cas kurde, à la fois de reconnaître cette légitimité très puissante même des coloniales, de mouvements kurdes qui essaient d'avoir une autonomie de pensée sur la question de féminisme, etc., hyper légitime et bien développée et très incarnée dans la pratique révolutionnaire, au contraire de beaucoup des féministes qui sont plutôt des pratiques élitistes, qui travaillent pas vraiment avec des femmes ou des autres communautés de façon ordinaire, alors que pour le mouvement kurde, la théorie est pratique, elle n'est pas dissociable. C'est vraiment la même chose. Tu peux pas dire quelque chose sur le féminisme sans le mettre en acte. Et parce que c'est un mouvement hyper populaire. Tout le monde y participe. Une femme qui a 5 enfants, qui a jamais été à l'école, elle était, quand j'étais dans les ateliers à la maison des femmes à Diyarbakır, elle était à côté d'une femme qui avait master de genre à l'université de Istanbul. Tout le monde travaille côte à côté. Parce qu'il n'y a pas cette hiérarchie élitiste, etc. Alors que dans beaucoup de mouvements féministes, on a vraiment des hiérarchies élitistes remarquables qui empêchent beaucoup de gens de se dire aussi féministes pour voilà, parce que ça les gêne, cet élitisme aussi. Du coup, il y a cette légitimité, mais bon, bref, avec le contexte actuel, c'est difficile aussi. Et aussi, pour moi, en tant que féministe kurde de Moyen-Orient, de pays du Sud, la question de solidarité internationale, c'est importante. Du coup, c'est ça qui va nous aider aussi de faire cette solidarité internationaliste, de reconnaître le travail des féministes dans le monde entier, quoi que ce soit, mais aussi, bien sûr, avec de voir le féminisme avec toute sa variété. De façon plurielle, il y a des féministes coloniales, il y a des féminismes impérialisme, mais il y a aussi des féminismes anti-capitalistes, il y a aussi des féminismes décoloniales très puissantes aujourd'hui dans certaines régions du monde, d'ailleurs pas qu'en Occident, dans plusieurs régions occidentales. Du coup, il faut reconnaître aussi tous ces courants socialistes, émancipatrices qui existent aussi au sein du féminisme dans sa pluralité pour ne pas réduire le féminisme à un terme instrumentalisé, par exemple, par des courants coloniaux et impérialistes. Sur la définition de la généalogie, ce qui est ambigu pour beaucoup de gens, c'est qu'ils disent que de quoi ils parlent exactement, parce que le féminisme, il parle de tout ça aussi. Bien sûr, c'est les mêmes sujets plus ou moins, c'est juste la façon dont on traite, c'est la méthodologie plutôt qui est distingue, parce que c'est une méthodologie très populaire. Par exemple, ils ont ce qu'ils appellent parwarde, c'est-à-dire la formation populaire. La formation populaire, c'est-à-dire les formations sur la question de genre, mais avec des jargons vraiment accessibles à tout le monde, avec un langage accessible à toutes les gens de la couche de la société. Du coup, ils donnent ces formations dans tous les espaces de mouvement, que ce soit dans les maquis, en prison, dans les maisons des femmes, les académies des femmes, dans les espaces, différents espaces variés au Rojava, où il y a le mouvement kurde, il y a ces formations de parwarde. Et parwarde, c'est aussi une façon de parler de l'expérience de genre, de voir ça avec la théorisation de Ocalan, aussi avec la théorisation du mouvement féministe, parce que ça reste une source importante. Malgré la méfiance envers le féminisme, les théories féministes, ça reste quand même une source importante pour la généalogie. Et du coup, de voir tous ces éléments ensemble pour parler de la généalogie. Mais la distinction de parwarde, c'est que c'est une formation militante, révolutionnaire, extra-universitaire, qui est très liée de la pratique quotidienne, qui n'est pas en décalage avec la pratique quotidienne. C'est ça qui la rend accessible à tout le monde et compréhensible pour tout le monde. Même les femmes, pour éduquer, du coup, ils peuvent se voir vraiment attachés à la généalogie et pas aliénés parce que finalement, ils se voient dans cette formulation très populaire. Parce qu'il y a la place pour elles-mêmes aussi et pour tout le monde. Parce qu'il y a l'interaction de différentes personnes de la société au sein de la généalogie qui est importante. C'est aussi un savoir en féminin qui a l'ambition de changer la narration de historiographie. C'est-à-dire, il pense que l'histoire, elle a été écrite jusque-là par les hommes, pour les hommes, sur les hommes. Du coup, c'est vraiment une histoire en masculin. Et là, ils veulent vraiment une histoire en féminin, c'est-à-dire de changer de, c'est ce qu'ils disent, head story, c'est-à-dire de écrire les histoires des femmes et changer ces narrations. Du coup, ils ont une méthode populaire d'aller vers des sources oral, folklore, des savoirs, savoir-faire féminin dans les villages, dans les quartiers, des personnes âgées, des mythes. Vous voyez, du coup, ils utilisent les sources qui sont moins utilisées dans les académies et dans des institutions institutionnelles, dans les formations des écoles et institutions formelles de l'État, beaucoup moins. C'est-à-dire, à l'école de l'État, ces sources orales, quotidiennes, populaires, ils sont beaucoup moins mobilisés, par exemple, qu'au sein de la généalogie. C'est aussi pour se distinguer de l'école raciste, nationaliste de la Turquie, de dire que notre formation de parwarde, notre école, c'est une école populaire accessible à tout le monde, mais accessible, mais aussi révolutionnaire. C'est-à-dire, il crée vraiment, non seulement, c'est comme une deuxième socialisation pour les femmes avec les formations de parwarde de la généalogie. Une socialisation moins genrée, plus politisée et plus révolutionnaire. Sur et vers un idéal révolutionnaire aussi qui est la décolonisation de Kurdistan, anticapitaliste, contre l'impérialisme, toutes ces ambitions en même temps. Du coup, dans ces formations, vous entendez tous ces grands mots, concepts de façon ordinaire et utilisés par les gens parce qu'ils ont quand même cette ambition d'utiliser dans la production de savoir local dont ils décrivent en tant que généalogie et qui s'oppose au modèle occidental, au modèle académique traditionnel et qui est plutôt un outil pédagogique en féminin plutôt que féministe. mais aussi pour changer la narration des sciences sociales, parce qu'ils sont très critiques des sciences sociales, de positivisme, etc. C'est vrai qu'il y a vraiment une compréhension limitée de marxisme et de positivisme de la part de la généalogie et du mouvement kurde. Il y a aussi des malcompréhensions. Parfois, on a l'impression que ni Öcalan, ni la généalogie, ils reconnaissent pas vraiment la diversité des courants marxistes, ou même la richesse des productions chez les marxistes. Ils reconnaissent pas non plus la richesse de production de savoir, par exemple chez les féministes, etc., dans la historiographie et dans les sciences sociales de façon générale. Du coup, parfois, ils ont une vision un peu caricaturale de sciences sociales ou de marxisme, etc., pour s'opposer à ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir aussi des critiques très légitimes, parfois de sciences sociales, sur le positivisme, comment les femmes, ils ont été réduits à un objet à un moment donné, l'exploitation de corps des femmes, l'exploitation de sexualité. Du coup, il y a tous ces concepts plutôt marxistes. Malgré passer le marxisme, il y a des concepts et des formulations marxistes qui existent toujours au sein du mouvement kurde, notamment quand il s'agit de formuler la question des femmes. Du coup, il y a ça, mais c'est vrai que parfois, c'est même difficile de comprendre qu'est-ce que c'est exactement la généalogie, parce que les références sont diverses, dispersées. Même les références aux écrits de Öcalan, elles ne sont pas très claires, parce que Öcalan, il s'inscrit pas dans une tradition claire pour dire que, par exemple, il est socialiste, il est anarchiste, ou il est écologiste. Il est tout en même temps. Et en même temps, il utilise la mythologie, il utilise les sources orales, il utilise les sources kurdes, l'histoire de la région. Il utilise plein de choses. C'est un mélange de tout. Du coup, c'est difficile de comprendre qu'est-ce que c'est finalement et comment on peut mettre en contact et en lien et en dialogue, du coup, cette production de savoir au nom de la généalogie et confédéralisme démocratique, peut-être avec les productions de savoir autour du féminisme, des études de genre, des sciences sociales, et notamment depuis 20 ans, on a beaucoup d'avancées sur ces questions-là. Comment on les mettra en dialogue? C'est parfois très difficile parce que c'est très fragmenté, les écrits de la généalogie et de Öcalan, qui empêchent un peu ce dialogue entre deux, et c'est un peu dommage parce que finalement, la généalogie aussi, elle peut enrichir de plus en plus des pensées féministes décoloniales et anticapitalistes vraiment qui existent dans le monde. Mais c'est vrai que dans le contexte, j'explique aussi dans le livre comment le contexte de conflit, la guerre, la criminalisation des militantes de la généalogie par l'État turc, leur arrestation, l'interdiction de la langue kurde dans plusieurs endroits. Tout ça empêche aussi de produire un savoir vraiment en tant que tel, comme il faut. Et aussi, il y a la question de traduction, l'accessibilité aux textes qui ont été écrits dans le monde entier, dans différentes langues, à travers qui deviennent de plus en plus difficilement accessibles pour un peuple qui subit, du coup, un conflit aussi violent, toujours en Turquie. Comme mot final, l'instrumentalisation d'une cause, d'un élément, ne veut pas dire que cette cause en soi, elle n'est pas légitime. Si la question cuir et la liberté sexuelle a été instrumentalisée par les libéraux, par les néocoloniaux, etc., ça ne veut pas dire que cette liberté de corps ou cette question cuir, elle n'est pas légitime en soi. Je donne un autre exemple plus lié à notre cas. Si le mouvement de Femmes, Vie, Liberté, du coup, un slogan qui vient du mouvement kurde, si ce slogan, au départ, décolonial, anticapitaliste, anti-impérialiste, dans sa nature de naissance, il change la nature, il a été instrumentalisé aujourd'hui en Europe par les féministes néocoloniaux, par les féministes néocoloniales et par les féministes impérialistes, qui sont pour la guerre, par exemple, d'Israël contre l'Iran, qui sont pour le génocide, ou qui sont, par exemple, très islamophobes, très racistes, etc., qui essaient d'instrumentaliser la lutte légitime des femmes kurdes pour parler de leur lutte islamophobe contre le voile ici, en France, etc., ou ailleurs, en Europe, dans tous les pays d'ailleurs. Ça n'empêche pas de dire que c'est cette cause, c'est ce slogan qui a été instrumentalisé, mais qui est légitime dans son propre territoire, qui reste toujours le très légitime, que ce soit au Kurdistan, que ce soit en Iran. En fait, moi, je l'appelle ce phénomène vraiment l'extractivisme des résistances des pays du Sud quand elles arrivent dans les pays du Nord. Du coup, ils changent la nature. Il y a des interprétations coloniales qui rendent la même cause très légitime, très difficilement accessible pour nous en tant que personnes qui viennent de la région. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait tout un travail pour encore valoriser, pour dire que Famille Liberté, il est légitime en soi, même s'il a été instrumentalisé.
Tu pourrais nous c'est qui est en train d'instrumentaliser
du coup on a toute une série de
faits en France peut-être non
en France mais pas que en Allemagne dans les pays voisins vraiment c'est en Europe oui du coup on a tout un courant des féministes libérales des féministes parfois je dis impérialistes parce qu'ils sont pro-guerre par exemple quand il s'agit de libération de l'Irak par États-Unis ou même aujourd'hui de l'Iran de utiliser du coup aussi même la lutte des femmes en Iran pour dire que voilà, c'est les États-Unis qui fait une guerre contre l'Iran, il est légitime pour libérer les femmes. Et qui a utilisé le même argument pour Afghanistan. Et c'est les mêmes personnes qui ont déjà instrumentalisé en fait la résistance légitime des Kurdes contre Daesh. Parce que pour eux, c'était pas une lutte de survie. Comme ils faisaient les Kurdes, tu vois, c'était une lutte de survie pour les Kurdes dans un contexte de génocide, vraiment. Et ils n'étaient pas contre les musulmans. Ils étaient contre l'ennemi qui, voilà, c'était dans la situation de survie. Il y a beaucoup de musulmans qui ont allé, du coup, faire le combat contre Daesh. C'était pas la question vraiment religieuse. Ils changent la nature quand ils arrivent ici. En fait, les Kurdes, ils étaient valorisés dans les médias européens parce que, dans les médias occidentaux, parce que c'était considéré comme les gens qui se battent des musulmans dans la région. Vraiment une interprétation qui n'a rien à voir avec la réalité parce que c'était déjà des islamistes. C'était pas des musulmans. C'est pas la même chose. On confond les deux. Et deuxièmement, tu vois, c'est ni la question de voile obligatoire en Iran et voile en tant que choix, je veux dire, ici en France et la laïcité qui empêche la liberté de corps aussi pour les femmes musulmanes ici en France, par exemple, ou en Europe, dans certains pays. Du coup, c'est de sortir ces questions de leur contexte et leur histoire et de le voir qu'à travers des problématiques de l'Europe. C'est un sort de eurocentrisme à nouveau. C'est-à-dire, c'est que ici qui nous intéresse. La question de voile, ici qui nous intéresse. Du coup, on s'en fout si c'était en soi, femme vie liberté, c'était en soi une femme on s'en fout si c'était en soi un mouvement décolonial anti-impérialiste contre la guerre. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser femme vie liberté pour notre propre objectif, qui est islamophobie ici, en Europe. Du coup, les mêmes féministes qui ont soutenu les Kurdes, du coup, contre Daesh, qui ont soutenu à fond les femmes kurdes et les femmes iraniennes avec le slogan « Femmes et Libertés » en 2022 et avant, quand il s'agit de la question de génocide palestinien et l'invasion d'Israël contre l'Iran, ils sont complètement silencieux. Parce qu'ils pensent que s'ils soutiennent les femmes maintenant, les femmes iraniennes, qui sont du coup sous la menace d'Israël, ils sont en train de soutenir les femmes musulmanes. Et ils veulent pas faire ça. Vous voyez? Du coup, c'est vraiment une solidarité sélectionnée, mais pour des objectifs de ici qui n'a rien à voir avec une solidarité qui a l'objectif émancipateur pour la libération de genre contre les dominations, quoi que ce soit genré, racial et génocidaire. Et on sait très bien en tant que féministe, c'est la première leçon. Il n'y a aucune libération à travers des bombes, à travers de guerres, à travers de la domination par ces guerres très, très masculinistes, dont créent que des victimes, et avant tout les femmes, parce que c'est les premières pistes aussi de violence dans les guerres. Dans ce contexte-là, du coup, on a de mal de créer aussi la solidarité, parce que finalement, on voit que notre cause très légitime, nos causes, à la fois la cause kurde et la cause des femmes, très légitimes, ils deviennent des causes illégitimes finalement quand elles arrivent ici. Quand ils voyagent, justement, parce qu'il y a ce eurocentrisme qui empêche doit voir ces causes-là, ces résistances des pays du Sud en tant que telles, parce qu'on pense qu'on peut jamais être inspiré par les résistances du coup des pays du Sud. Et les pays du Sud, ils sont consommateurs des idées, des pratiques qui ont été envoyées par les pays du Nord. Ils ont du mal à voir que peut-être, une fois pour toujours, comme avant le capitalisme, tu vois, les pays du Nord, ils peuvent aussi être inspirés par les résistances des pays du Sud, par les résistances des Kurdes, par les résistances des colonels et anti-impérialistes des Kurdes et aussi des femmes, tu vois, mais en reconnaissant vraiment la nature et l'origine de ces résistances et pas changer ça pour leur propre cause.